Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui sauve votre mariage au passage. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut. On a une grande mission aujourd'hui.
Pas trop de pression, pas trop de pression. On se retrouve donc pour un nouvel épisode. On est toujours en distanciel pour celui-ci. Je suis moi-même en fin de Covid. Voilà, je m'excuse auprès de la France pour mes quelques intonations approximatives. Voilà, je suis désolé, mais voilà, on est là, on est quand même là pour parler de jeux vidéo avec vous. Et j'ai envie de vous dire que c'est grâce à vous qu'on est là, puisque vous pouvez nous soutenir sur notre Patreon qui continue, voilà, à faire son ascension lente mais sûre qui nous emmène doucement vers le nouveau palier et donc éventuellement le partage de nos sessions de jeu pour préparer l'émission sur Twitch. Twitch Fin du Game JV, vous pouvez nous retrouver, c'est facile.
C'est simple, si on superpose les courbes de notre Patreon et d'Omicron, ça se juxtapose parfaitement. Est-ce que c'est une coïncidence? Je sais pas.
Bientôt des articles chez Ludostri avec Oscar Le Maire pour nos courbes.
Mediapart, l'affaire révélée. Voilà, donc merci évidemment si vous nous rejoignez sur Patreon. Merci également à Third Edition, la maison d'édition qui nous sponsorise et qui est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que.
En ce moment, chez Third, eh bien, c'est les soldes. Déjà, c'est les soldes jusqu'au 8 février. Mehdi, il m'a dit de dire. Donc voilà, encore plein de livres à découvrir qui sont encore dispo à des prix défiant toute concurrence. Donc voilà, si vous écoutez l'épisode à sa sortie, vous pouvez encore en profiter. Est-ce que toi, tes bouquins, ils sont en solde, Benoît ?
Oui. En fait, c'est très réglementé, hein, le marché du livre en France. Et donc, il faut qu'ils soient sortis depuis un certain temps. Donc, en fait, à chaque nouvelle année, ils peuvent rajouter des bouquins dans leur collection de soldes. Donc là, maintenant que ça fait quand même 4 ou 5 ans que la maison d'édition, elle est lancée, vous avez une large sélection de livres à moitié prix.
Exactement. Donc voilà, rendez-vous sur le site de Third pour retrouver tout ça. Et puis voilà, on les remercie encore une fois eh bien, de nous soutenir aussi pour fabriquer cette émission merveilleuse. Émission merveilleuse qui aujourd'hui va être consacrée à l'amour. Hein. Je l'ai dit, voilà, c'est encore un épisode sur l'amour, hein, tout simplement. On va parler de It Takes Two. Est-ce que je vois pas de générique dans le conducteur?
C'est vrai que ça n'a pas été... Non, mais tu sais que j'ai écouté l'OST et il n'y a aucun morceau qui m'est revenu. C'est un peu comme le jeu, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gameplay, tu vois, j'ai une impression générale, mais j'ai pas eu un petit truc isolé qui m'avait marqué, donc je me suis dit, je fais confiance à DJ Max pour nous trouver ça en temps et en heure.
On a rematé le trailer tout à l'heure, il y a une musique hein, qui pourra peut-être...
Oui, remarque, ouais. Parce que comme on n'a pas encore les soucis de DMCA et de tout ça, on peut mettre une chanson sous copyright.
Un jour, quand ça va nous tomber dessus, tout ça, franchement, quand ils vont débarquer sur Spotify, enfin, c'est quoi cette émission-là qui pille allègrement le droit d'auteur sans aucun respect?
C'est eux, c'est nous.
Le truc qui est cool, c'est que contrairement, par exemple, à du YouTube, on peut remplacer nos fichiers, donc voilà. Ouais. A posteriori, petit message pour l'équipe FDG dans 5-6 ans, c'est pas grave, on est désolé.
Et donc on se retrouve juste après ça. Alors, It Takes Two, c'est sorti le 26 mars 2021 sur PC, c'est également sorti sur console PlayStation, Xbox. Vous avez remarqué, maintenant, je dis console, Xbox et PlayStation parce qu'on est tellement sur de l'entre-deux générationnel que c'est un peu compliqué, donc je me facilite la vie. C'est développé par Hazelight et c'est édité par Electronic Arts. Et c'est surtout, notamment, réalisé par un certain Joseph Fares, voilà, nom que vous avez peut-être déjà entendu, parce que c'est quelqu'un qui aime bien prendre la lumière dans les médias, et on va justement un petit peu revenir sur son parcours, parce que c'est quelqu'un qui vient du cinéma à la base.
Ouais, c'est un nom qu'on connaissait peut-être déjà, on reviendra en détail plus tard, mais il avait fait d'autres jeux avant It Takes Two, et en fait sa vie était déjà un petit peu connue, et notamment, comme tu le dis, parce que c'est un réalisateur, donc il est libano-suédois, lui donc il vivait au Liban jusqu'à, je crois c'est 10 ans à peu près, sa famille a fui la guerre civile qui a duré jusqu'en 90, et il a fait des films, notamment certains qui racontaient un petit peu cette histoire-là, et c'est des films qui marchaient très bien, en fait, ça a vraiment eu des succès, je sais pas si c'est le cas de tous, hein, mais il y en a eu au moins un qui était premier au box-office suédois, donc en fait il est assez connu mine de rien là-bas. Et c'est pour ça que, en fait, c'est comme ça qu'il a pu rentrer, entre guillemets, dans le jeu vidéo, puisque étant connu, il était souvent invité pour des conférences, parler un petit peu de cinéma, etc. Et une fois, il a été invité dans une école de jeux vidéo pour parler un petit peu scénario, narration, etc. Et lui, comme il joue beaucoup, et il a des idées, tu vois, il a des idées, peut-être même des opinions, il a une personnalité, on va
peut-être parler plus tard. Il est très politisé, ce personnage.
En tout cas, on sait que quand il y a des idées, je pense qu'il n'hésite pas à les dire, à les partager. Et un mec de l'école lui dit, écoute, nous, on va avoir des prototypages, des phases de prototypage avec les étudiants qui vont pouvoir tester un petit peu leur projet pendant genre 6 semaines. Et écoute, rejoins des projets, viens à bord. Et il a élaboré, en fait, c'est lui qui avait quand même les idées, a priori, principales quand même de ça, parce que lui, il ne sait pas à la base coder. Je crois qu'il a quand même appris sur le tas au moins les bases, comprendre ce que c'est que de faire un jeu vidéo, tout simplement. Et c'est un prototype qui deviendra Brothers. Et pour ça, en fait, il a eu quand même un autre contact donc chez Starbreeze, qui est un studio, je crois, oui, suédois, si je dis pas.
Oui, c'est un studio suédois aussi. Ouais. C'est ceux qu'on fait les jeux, les chroniques de Riddick. Si vous connaissez pas, grosse recommandation, Made in Exerve, c'est de l'immersive sim-like qui est très sympa. Ils avaient fait The Darkness, Syndicate, Payday, bref, c'est quand même un studio qui a un petit track record plutôt sympa.
Oui, Payday, c'est des jeux assez populaires, assez connus. Il y en a eu deux, il me semble, des jeux multi. Multi.
On en avait parlé viteuf, je crois, pour Left 4 Dead, ou en tout cas, il y avait des gens qui nous avaient dit qu'on aurait pu comparer Left 4 Dead à Payday, parce que c'est vrai qu'il y avait ce côté coop, mission, etc. quoi.
Yes. Oui, parce que j'ai pas du tout joué, et c'est vrai qu'en fait ça aurait été pertinent de le citer. Ça a été dit par la team service après-vente. et donc du coup, Joseph Fares vient avec son petit prototype qu'il a pitché à Starbreeze, et ils sortiront du coup Brothers en 2013. On peut s'attarder une minute ou deux sur Brothers, parce que c'est un jeu qui est assez connu, mine de rien, ça fait partie de ces jeux où quand on se demande... est-ce que vous avez déjà vécu un truc que vous n'auriez pas pu vivre ailleurs dans un film ou un livre ou quoi? Et Brothers, il est là, tu vois, il est en général dans le top 10, on va dire, puisque, alors sans spoiler, il y a une scène à la fin où vraiment on ressent quelque chose, et même en fait, pour revenir à ce qu'est Brothers, en fait, le pitch de base, entre guillemets, c'est un jeu où, avec une seule manette, on va incarner deux personnages. Alors il est plutôt pensé pour être fait en solo, je sais qu'il y a des gens qui le font en coop, les deux sur la même manette, c'est possible, mais en tout cas le jeu se vend plutôt comme ce fait de contrôler deux personnages avec chacun va représenter une main entre guillemets, il y a des choses qui sont faites autour de ça. Donc c'est un jeu qui a un vrai succès d'estime, hein, mine de rien, qui a plutôt bien marché sans être non plus un carton
monumental. Tu sais, c'était l'époque, la grande discussion, tu voulais te dire, le jeu vidéo est-il un art? Tu avais ton top 3, Journey, Brothers, et puis tu en mettais un troisième pour le fun.
Shadow of the Colossus.
Ouais, voilà,
c'était vrai, je vous le donne, ça me fait plaisir. Et du coup, c'est le succès justement de Brothers qui lui a permis d'obtenir l'appui d'Electronic Arts pour fonder son propre studio, donc Hazelight, qui a été fondé en fait dans le cadre de ce truc que Electronic Arts appelle les Electronic Arts Original, qui était une sorte de programme pour financer des jeux indépendants, entre guillemets. Alors indépendants, bif-bof, puisqu'ils sont financés par Electronic Arts. Mais par contre, ce qui est intéressant avec ce programme, et surtout qui est étonnant venant de la part d'Electronic Arts, qui n'est pas non plus l'éditeur le plus apprécié du monde dans le secteur jeu vidéo, je crois que même il y a des années où ils ont été élus pire entreprise.
Ah, c'est même pas des années. Ils ont un des records nombre d'années successives pendant lesquelles leurs salariés ont considéré que c'est... Enfin, même les gens ont considéré que c'était une des plus mauvaises entreprises dans lesquelles travailler. Bravo.
Et donc, oui, voilà, GG Electronic Arts. Mais en tout cas, bah, ce programme Originals, il est atypique. Bah, déjà parce qu'ils vont rejoindre, ils vont financer des jeux indépendants. Hein, c'est pas forcément la cam d'Electronic Arts. Hein, ils font plutôt du fut. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce programme, en fait, le mode de financement, eh bien, c'est EA qui met des sous dans la machine, donc il va financer vraiment les projets. Mais par contre, ils vont seulement, à la fin, une fois que le jeu sort, ils vont seulement récupérer, eh bien, leur coût, c'est-à-dire ils vont récupérer leur mise. Mais par contre, tous les bénéfices, eh bien, c'est le studio qui va le garder. Et puis, il y a aussi la propriété intellectuelle des licences. Donc, vraiment, c'est un deal bah, très, très, très intéressant pour des studios indés. Et c'est bah, de ça dont va bénéficier Joseph Fares pour A Way Out, qui sera leur prochain jeu. Alors, pour citer éventuellement d'autres jeux hein, qui étaient dans ce programme, il y avait Unravel, donc le petit jeu avec les peluches comme ça. Et puis, plus récemment, il y a eu Sea of Solitude.
Ouais, il y a eu Lost in Random, qui est plutôt sympa. Pour le coup, ça, j'y avais joué, je vous recommande. Il y a Fey, qui avait pas mal fait parler de lui.
Ouais.
C'est des jeux, de toute façon, qui, à chaque fois, essayent quand même d'avoir une petite identité visuelle un peu marquée. Il y avait Sea of Solitude aussi. Mais c'est vrai que quand on en a discuté entre nous, la qualité, on va dire, de leur programme nous a surpris tous les trois parce que ben Ubisoft avait un petit peu ce truc-là. D'autres studios ont fait ça. Il y avait les Square Enix Collective, notamment. Il y a eu cette période où tout le monde essayait de faire ses jeux indés, entre guillemets, hein, SO. On en a parlé, tu sais, le film sur la guerre, le jeu, pardon, sur la Première Guerre mondiale.
Soldat inconnu.
Soldat inconnu, oh là là.
Ah oui, voilà.
Je suis pas très réveillé. Donc, c'était un peu dans cet esprit-là. Mais là, vraiment, avec les Originals, tu sais, on a dû vérifier plusieurs fois, genre, oui, ils donnent 100% des bénéfices aux studios.
De toute façon, on peut le dire, hein, c'était quand même une opération pour à la fois l'industrie de dire voilà hier on est quand même bien et puis même pour les joueurs ça permet de redorer un petit peu le blason.
Oui bah du coup c'est tant mieux pour les studios hein, qui pour le coup derrière en profitent, c'est ça leur donne aussi accès à des très bons moyens parce que par exemple A Way Out ils ont pu bosser notamment avec DICE qui est le studio qui est connu pour faire les Battlefield notamment, mais c'est un énorme studio suédois aussi d'ailleurs hein, si je dis pas de bêtises.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et du coup bah ils ont pu leur prêter par exemple toutes leurs installations pour faire de la motion capture, pour faire des choses comme ça quoi.
Des locaux, hein, tout simplement. Mmh. Le jeu a été développé au sein des locaux de DICE, parce que comme tu le dis, c'est un monstre, hein, DICE. Hein. Ils font pas seulement des jeux, ils font tout le moteur, là, le fameux Frostbite.
Ouais.
Donc voilà, c'est un monstre en Suède, c'est une grosse entité très importante au sein d'Electronic Arts. Donc c'est vrai que ça a pu être cool pour Azelite Studio de profiter de cette structure. Quoi.
Et pour l'anecdote, c'est ça qui a fait la diff en fait, puisqu'a priori Joseph Fares il avait aussi un deal potentiel avec Microsoft pour A Way Out. Et il y a EA qui est venu alors que ça avait déjà très bien avancé, les négociations avaient bien avancé avec Microsoft. Et le fait qu'ils aient ces locaux-là à disposition en Suède, où était déjà basé Joseph Fares et les quelques membres qui le rejoignaient depuis Brothers, bah c'est ça qui fait qu'ils ont accepté de bosser avec EA. Et bon, comme on l'a dit, le deal EA Original, c'est aussi un deal en or, en vrai. Hein. C'est un truc, 100% des profits, c'est quelque chose qui n'est pas normal, entre guillemets, dans une relation éditeur-studio.
Oui, on en avait parlé, pareil, dans notre préparation. Là, récemment, il y avait Epic Games qui s'est lancé dans les Epic Mega Grants avec le rachat de Gen Studio, Remedy, etc. Et en fait, même si leur deal est très très cool, ils prennent quand même la moitié des revenus une fois qu'ils ont recoupé leur mise initiale. Et ce deal-là était déjà annoncé comme étant un truc assez exceptionnel dans le milieu de l'édition, quoi.
Mais du coup, voilà, on a parlé de A Way Out, et ben c'est quoi ? Donc c'est le jeu numéro 2 et fraîchement sorti du nouveau studio, donc Hazelight. Hazelight, je sais pas trop comment ça se prononce, on va dire Hazelight effectivement.
Ouais, Hazelight.
Moi je le dis pas, ça m'évite de bêtises.
Et c'est un jeu coop, du coup là vraiment à deux, c'est pas à la Brothers où une seule personne va jouer. On est sur une inspiration très cinéma aussi, un côté split screen, donc la coop à la split screen normale où chacun a une moitié de l'écran. Parfois ça va changer, ça peut être un seul écran pour les deux, ou ça va passer en horizontal, enfin il y a un petit jeu d'écran. Ouais. Et on incarne deux mecs qui sont en prison et qui vont, alors mini spoiler parce que ça arrive quand même très tôt, ils vont s'évader, mais après il y a tout l'après prison, il y a toute leur histoire. Je crois qu'il y a une histoire de, parce que c'est des malfrats hein, à la base, où qui étaient ils fricotaient avec une des
Michael Scofield hein, évidemment on connaît.
C'est ça.
Ouais, mais c'est des petits malfrats, tu vois, c'est pas des vrais thugs, ouais. Qu'on fait des vraies conneries, voilà, c'est des petits mecs, voilà, ils avaient une vie difficile, you understand, tu vois, c'était voilà, c'est quand même ce genre de malfrats.
Et je pense qu'ils ont peut-être été trahis aussi par l'organisation, machin.
Oui, voilà,
ils
c'est
ont
ça,
réglé
voilà.
Leur compte, voilà, ils sont méchants mais pas si méchants. Il y avait déjà ce, on pourra le rementionner pour It Takes Two, mais ce alors ça s'appelait pas comme ça, mais ce système de pass ami, ce friend pass, où en fait il y a besoin d'acheter ça qu'une seule fois pour jouer à deux en fait, et c'était même déjà cross-platform, donc on pouvait jouer quelqu'un sur sur console PlayStation, comme on dit maintenant, pouvait jouer avec quelqu'un sur Xbox.
Bon, A Way Out, c'était pas gueudin, hein, on peut quand même le dire. C'est vrai que, bon, c'est notre avis, hein, au sein de la rédaction de fin du game. Voilà, c'est vrai que, bah, je me souviens, on l'avait fait ensemble, Maxime. Enfin, on l'avait pas fait en entier, non, justement, non. Ensemble. On avait joué, on a fait, ouais, bon, peut-être, on n'a pas fait la fin du game avec celui-ci.
Non, je pense qu'on a joué 2 heures et, bon, ouais, ça nous avait pas plu.
C'était un peu du sous Uncharted, je dirais, comme ça, de très très loin, avec beaucoup d'actions contextuelles et tout, c'était... Bref.
Et puis même, enfin, histoire de s'attarder 2 secondes, parce que justement, c'est là qu'It Takes Two, je pense, fera sa différence, mais en termes de ce qu'on y fait, je trouvais pas ça hyper original, intéressant. En fait, il y avait ce côté très, je pense, c'était pas mal inspiré du cinéma, tu vois, alors que ce soit Prison Break, L'Évadé d'Alcatraz, tu vois, des films comme ça, il y avait un côté... très bon, bah je vois déjà un petit peu, enfin la moitié des idées te surprennent pas en fait, donc il y avait peut-être un côté un peu trop évident entre guillemets, mais bon, en attendant, voilà, ça c'est notre avis. Le jeu, bah en fait il a très bien marché, hein, mine de rien, en tout cas au moins au niveau commercial. Il a fait 3,5 millions de ventes, et d'ailleurs on en fait partie, hein, même si on n'a pas aimé, on a quand même pris le jeu. c'est pas rien entre guillemets, et sur Metacritic on avait vu c'est entre 78-79, ce qui est plutôt correct, ce qui est...
Ouais, on s'approche des 80, ce qui est quand même tout à fait... Non, mais le jeu avait été bien reçu, hein. C'est juste que, voilà, on est des chiants, il faut le dire, voilà, on aime
nous
rien, etc.
Exigeants.
Voilà, ouais. Nous sommes des joueurs exigeants.
Ça, c'est, fait, voilà, tu vois, c'est le truc facile à sortir. Non, mais moi, ce que je me dis a posteriori, c'est que ben, il joue sur un segment où il y a quasiment plus de jeux. Tu vois, il y a eu une période dans les années 2010 avec Gears of War, Halo. Il y avait eu, on avait dit, il y avait quoi ? Il y avait Ken and Lynch, Army of Two. Enfin, il y avait pas mal de jeux comme ça qui surfaient sur la vague coop. Splinter Cell aussi. Il faut que je le mentionne pour Max.
Ah, il faut le
mentionner. Et parce qu'en plus, c'était sympa. Et mais voilà, après, ça c'est assez tari, c'est-à-dire que c'est plutôt passé du côté des petits party games ou côté indé, et là ils sont arrivés avec un jeu qui est beaucoup marketé, parce que bon, forcément t'as EA en force de frappe derrière, c'est assez énorme, tout le monde parlait de ce jeu-là pendant un certain temps, et du coup bah, ils proposent une expérience qu'on peut faire à deux, ce qui finalement, dans un univers où on a soit des jeux solo, soit des jeux multi-compétitifs, étaient finalement, vous voyez, ils étaient un peu tout seuls quoi, sur ce marché, donc je pense que ça explique aussi beaucoup le succès.
Et puis surtout du vrai co-op, parce que là on a mentionné, tu vois, les Gears of War, les Ken and Lynch, etc. C'était souvent des jeux où finalement tu pouvais faire la campagne solo tout seul, et c'est juste qu'il y avait une deuxième manette qui se rajoutait et tu faisais la même chose, c'est-à-dire que chacun pouvait limite jouer solo. Un des rares jeux qui était vraiment co-op, à mon avis, c'était plutôt Portal 2, tu vois, qui avait vraiment ce mode. Et comme Splinter Cell, justement, c'était des modes très spécifiques où justement c'était designé pour faire de la co-op, alors que là, bah, A Way Out, c'est vraiment pour faire de la co-op. Et on l'a dit, ce truc de pass ami, ce qui est important de noter, c'est que c'est justement pas un jeu où tu te dis bon bah je l'achète pour moi, je vais me lancer et je vais avoir un matchmaking, le jeu va trouver quelqu'un à ma place. Là c'est pas le cas, il faut savoir en fait, faut que tu aies quelqu'un déjà avec qui jouer, donc ça demande un engagement qui est assez particulier, tu vois, et c'est vrai que ça peut effrayer, je pense, beaucoup d'autres éditeurs et développeurs, parce qu'on se dit bon bah voilà, il y a un engagement qui est fait, il faut que vous soyez deux.
Et là encore, on peut noter que c'est intéressant de la part d'EA de se dire, bah oui, on sait qu'en termes de marketing, si on veut vendre ce truc-là, on est obligé, entre guillemets, d'en vendre que la moitié par rapport à ce qu'il pourrait. Et je trouve ça cool d'avoir justement bien mis en avant ce truc-là. Alors, je ne savais pas que c'était le cas pour A Way Out. J'en avais entendu parler pour It Takes Two, mais du coup, ils avaient un système quasiment identique qui ne s'appelait pas encore le Passami, mais voilà, c'était vraiment cette idée-là, quoi.
Et ça leur donne une identité, puisque comme vous l'avez dit, voilà, des jeux coop, bah, des jeux vraiment coop, pensés pour la coop, il y en a quasiment pas. Et là, A Way Out, bah, c'est un des seuls représentants à l'époque de son genre. Et du coup, Hazel Light et surtout Joseph Fares vont prendre un petit peu cette position, cette identité. Et je dis surtout Fares parce que bon, il a quand même une personnalité qui déborde aussi. Hein. On l'a vu, je sais même
il
plus.
Il est flamboyant, comme on dit ça, dans le jargon.
Bah, parce qu'il y a évidemment, c'était pendant les Game Awards, bah, je pense que c'était à l'annonce de It Takes Two, si je dis pas de bêtises. Je pense que ça devait être pour le trailer. Je pense qu'il avait été révélé aux Game Awards et qu'il n'était pas encore sorti. Et que Joseph Fares, voilà, avec le fameux Fuck the Oscars, avec son doigt d'honneur sur la caméra. caméra. On retient que ça, mais en fait, même si tu regardes tout le truc, c'est assez long. Et il parle assez longtemps, et il dit, hey, you know, EA, parce que c'était pendant un peu les polémiques de microtransactions et tout. Et il est... En fait, lui, de sa position, il va dire que oui, il fuck up sometimes, tu vois. Ils font de la merde, parfois. Ouais. Mais il dit, mais avec nous, ils sont très cool, ils sont très sympas. Donc, il y a une certaine honnêteté, tu vois, de sa part, et du doigt d'honneur qu'on voit pas tous les jours. Et c'est devenu, une vraie personnalité. Comme dit, il était déjà pas avare quand même en interview ou en truc à l'époque de Brothers The Way Out. Mais maintenant qu'il fait en plus de ça, des jeux de plus en plus connus, populaires, on l'invite de plus en plus et s'exprime de plus en plus. Donc c'est lui qui devient le visage en fait du studio.
Sachant qu'il a, forcément un angle assez unique qu'on peut pas forcément comprendre quand on est que du jeu vidéo, parce que lui, il vient du cinéma, qui est un milieu où c'est quand même très fermé, il y a beaucoup de gatekeeping, c'est assez compliqué d'être mis en avant, les cérémonies des Oscars, justement, enfin, t'y vas pas, tu te pointes pas comme ça, habillé, bourré comme il l'était, tu vois. Et je pense que, tu vois, il y a un petit côté... On sentait un peu le côté un peu revanchard, en fait, par rapport au milieu du cinéma, qu'il a peut-être déçu, j'en sais rien. Il me semblait que j'avais lu un truc comme ça, où il disait que c'était un peu compliqué. Et là, de voir que le jeu vidéo prenait autant d'ampleur et qu'il était mis en avant, je pense qu'il y avait une sorte de petite victoire, tu vois, sur la vie. Enfin, c'est un passage qui est assez hallucinant à regarder, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, tu dis « fuck » à l'écran. Enfin, c'est scandaleux, hein. T'as des gens qui portent plainte instantanément, t'as des associations de famille qui demandent à ce que tu te fasses seppuku. Enfin, c'est... voilà, t'as pas le droit de faire ça, quoi. Donc c'était assez étrange comme moment, mais voilà, ça lui, en tout cas, ça a vraiment ancré sa personnalité, ouais, et il est connu aujourd'hui, tu vois, comme David Cage, comme certaines personnalités, Kojima, etc. Ça fait partie des noms que les gens ont entendu parler dans le jeu vidéo.
Et surtout, en fait, c'était déjà un peu le cas avec Brothers, parce qu'on était dans la vague indé, entre guillemets, et il y avait vraiment ce, entre guillemets, besoin ou cette réalité qu'on pouvait associer souvent un jeu à une personne. Sur des productions beaucoup plus modestes. Et comme tu as dit, c'est que comme il vient du cinéma, il a aussi quand même des perspectives intéressantes, parce que très souvent, les questions qu'on lui posait, c'est c'est quoi la différence, machin, entre les deux. Et en vrai, il apporte parfois des visions qui sont pas inintéressantes. Moi, j'en avais retenu deux. C'était la première, c'était différent un jeu vidéo, c'est comme si t'étais au cinéma, mais que les spectateurs, ils entraient sur le set du décor et ils faisaient ce qu'ils voulaient, tu vois. Il dit, t'as plus le contrôle de la caméra, des trucs, des lumières, des machins, et ils disent c'est beaucoup plus le bordel, entre guillemets. Il y avait une autre, il y a une interview assez longue de lui sur IGN, ils ont un format qui s'appelle Unfiltered, qui est pas mal, et à un moment il dit, je crois que le mec avait dû poser la question, genre, est-ce que vous allez refaire des films un jour ou quoi, et il dit quelque chose du style, alors je sais pas si je vais en refaire, mais en tout cas si j'en fais, ce sera des vacances par rapport à faire des jeux vidéo.
J'ai lu ça,
et il dit, et évidemment, tu vas faire du cinéma et tout, réaliser des films, c'est beaucoup de boulot, mais il dit, mais un jeu vidéo, c'est incomparable à un film en termes de masse de travail, de tout ce qu'il faut faire et tout en amont. Donc il a ces petites opinions qui sont intéressantes, effectivement.
Et puis du coup, il va continuer dans l'industrie, et avec It Takes Two, qui sera toujours dans le cadre des EA Originals. Cette fois-ci, le studio va quasiment doubler de volume, parce que sur A Way Out, ils étaient une grosse trentaine, et là, ils vont passer à une soixantaine. Donc encore un projet encore plus ambitieux à son niveau. Toujours, évidemment, coop, 100% coop, ça y est, vraiment, Joseph Fares confirme un petit peu cette volonté de s'imposer vraiment comme la figure, voilà, de la personne qui fait des jeux coop. Il a eu pas mal de petits takes aussi qui m'ont plu personnellement, voilà, ça m'a parlé sur la durée de vie, sur le fait que voilà, il y a des choses que le jeu vidéo a tendance à recycler beaucoup trop de trucs, qu'on fait des boucles qui sont répétitives, et que lui, il a envie de proposer des jeux où on s'ennuie jamais, où on essaie de se renouveler le plus possible, et c'est vraiment une intention qui va se traduire justement dans It Takes Two, et qui lui aussi, au final, va être un gros succès. Ça va être encore plus un succès que A Way Out. Sur Metacritic, on va monter presque à 90 cette fois-ci, puisqu'on est à 89. Déjà en octobre, sachant que je l'ai dit, le jeu il était sorti en mars, en octobre il était déjà à 3 millions d'exemplaires vendus. Il y a de grandes chances que là, aujourd'hui, au moment où on est en train de faire l'émission, eh bien, le jeu ait dépassé A Way Out en termes de vente. Et puis surtout, on parlait des Game Awards, mais cette fois-ci, il n'est pas venu faire fuck les Oscars, il est venu récupérer son awards du Game of the Year, tout simplement 2021, puisque c'est It Takes Two qui l'a gagné. C'était une année un peu particulière, nous c'est vrai qu'on se disait, c'est un peu surprenant, marrant de voir ce jeu le prendre, parce que c'est pas, on peut spoiler notre avis, c'est pas non plus un jeu qui va rentrer au panthéon incroyable du jeu vidéo. Mais par contre, c'est vrai que si on regarde un petit peu les autres concurrents qu'il y avait dans cette année, c'est peut-être celui qui était le plus fédérateur, à côté de Metroid Dread, de Deathloop, de Psychonauts 2 aussi, qui voilà, qui sont des jeux qui peuvent être un petit peu, qui peuvent un peu plus divisés, on va dire. Là, c'est un jeu vraiment, je pense, qui fait quand même un peu l'unanimité, où tout le monde va quand même pouvoir se retrouver dedans. Et c'est un petit peu comme ça qu'on explique le truc, quoi.
Il y a un côté feel good, en fait. Tu vois, je me dis, avec le recul, en période de pandémie, machin, enfin, tu peux faire de la sociologie de comptoir, y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est mine de rien un jeu coop dans un univers qui est soit solo, soit compétitif. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est un truc qui se démarque avec, en plus, une identité visuelle assez marquée, une histoire un peu originale, enfin non pas originale du tout, mais on va dire indifférente de ce que pouvait être
oui,
Way
oui,
Out.
Tout à fait.
Voilà, et du coup ça me choque pas vraiment, c'est juste qu'on se dit bon bah voilà, 2021 c'était quand même une année particulière pour le jeu vidéo. À mon avis, les délibérations pour 2022 ça va être un peu plus compliqué, mais du coup ça, ils en ont bien profité, et clairement, il faut savoir que comme les Game Awards aujourd'hui c'est un des événements les plus suivis en termes d'audience, ça largement dépassé les Oscars depuis pas mal d'années, c'est suivi par des centaines de millions de personnes dans le monde. À mon avis, ça a dû bien booster leurs chiffres de vente, hein, tu vois, d'avoir ça qui apparaît sur leur truc. Je sais pas, il y a des chances que le jeu soit dans le Game Pass ou qu'il soit dispo, parce que je sais qu'il y avait un deal entre EA et Xbox. Donc, à mon avis, voilà. Et si vous l'avez pas encore fait, malgré ce qu'on va pouvoir dire là dans quelques minutes, vous pouvez y aller sans problème.
Eh ben justement, on va pouvoir enchaîner sur l'histoire de A Way Out, qui est donc encore une fois un jeu coop. On joue deux personnes, et cette fois-ci ces deux personnages, c'est pas deux anciens tollards, c'est un homme et une femme qui sont mariés, tout simplement. Mais le problème, c'est que voilà, May et Cody, leur mariage bat un petit peu de l'aile. Alors ils ont une fille ensemble qui s'appelle Rose, mais voilà, Cody, lui, il est à la maison. Qu'est-ce qu'il travaille pas à ce moment-là de leur vie, quoi. Et puis May, elle, par contre, elle est ingénieure ou un truc comme ça, je crois.
Je sais pas ce qu'elle fait concrètement, mais elle est busy.
Elle est busy,
très occupée. Elle rentre la moula, quoi. Voilà.
Et du coup voilà, ils sont en pleine démarche, en fait. Ça y est, dès le début du jeu on sait qu'ils ont décidé de divorcer, et ce qui va vraiment enclencher le truc, c'est que Rose va les entendre discuter de ça justement, et réaliser que ça y est, c'est terrible, ses parents vont se séparer. Et du coup elle s'enfuit dans son petit garage où elle a créé des petites poupées à l'effigie de ses parents, et elle va se mettre à pleurer, magie. Elle va pleurer, je crois, est-ce qu'elle pleure sur le livre ou un truc comme ça?
Ouais, il doit y avoir un truc comme ça. Alors, dans le lore officiel du jeu, elle a trouvé le Book of Love du docteur Hakim dans une poubelle de son école. Et donc, elle pleure dessus, et la magie du docteur Hakim va aspirer l'âme de ses parents et les insuffler dans les petites poupées pour les forcer à fix your relationship. Voilà.
Exactement, donc voilà, là on a l'introduction du personnage du docteur Hakim, donc qui est dans cette espèce de livre anthropomorphe qui a une personnalité de mexicain un peu exubérant, on va dire, et c'est lui qui va être le coach finalement tout au long du jeu de Cody et May, qui se retrouvent donc dans ces corps de petites poupées et qui vont devoir mener toute une aventure en fait au sein de leur maison, façon Chérie, Gérer, Tracy les gosses, et qui vont traverser différentes péripéties pour, comme tu le disais Benoît, fix your relationship, donc réparer leur relation qui a été cassée. Voilà,
sachant que les enjeux en fait sont différents, c'est-à-dire que eux deux cherchent à redevenir humains, et le docteur Hakim va les piéger régulièrement et les mettre face à la réalité de il faut fixer sur relationship, ça c'est très important. On peut noter
et
au passage.
Comment on fixe
sa relationship? Eh bien, il faut coopérer. Voilà. C'est comme ça, en fait. C'est la solution
c'est
à la paix dans le
marche.
Monde. Voilà.
Exactement. Et du coup, en fait, tout au long du jeu, on va vivre plein de petits événements. Alors, au début, on est dans le garage, là. Il y a des. Alors, ça part un peu en délire, hein. C'est-à-dire que c'est les aspirateurs qui sont vivants, les prises électriques ont des yeux, des clous qui parlent, etc. Donc, on part vraiment dans un univers totalement cartoonesque.
Banjo et Kazooie, coucou.
Oui, il y a un petit peu de ça, effectivement. Et puis, après, il y aura, la guerre, là, entre les écureuils et les abeilles dans le grand arbre du jardin. Donc, là aussi, ça va être toute une séquence assez chouette. Et puis voilà, on va traverser en fait toutes les heures et demie, deux heures, on traverse des chapitres comme ça, finalement qui nous emmènent dans les différents lieux de la maison, les lieux de vie par lesquels ils sont passés et qui portent tous un petit peu les stigmates justement de cette relation qui est cassée. Voilà, le garage qui est laissé à l'abandon, le jardin qui est totalement
bordel. T'as pas réparé l'aspirateur,
voilà,
t'as oublié de changer les piles, voilà. T'as pas lavé les plantes.
Et la chambre, c'est le bordel. Bah ouais. Et machin. Il y a une séquence dans la cuisine ou pas ? Il y a pas une
Je crois pas.
Non. Ça me dirait. Ils ont pas fait la cuisine. voilà. C'est
mais parce que Rose, elle y est, elle, tout le temps. Tu sais, elle est. Voilà, en fait, c'est le moment. Un moment, ils essayent. Je crois qu'ils volent dans la cuisine et ils finissent dans le globe. Je crois que c'est le moment où, en fait, ils finissent dans le globe de neige ou un truc comme ça.
Ouais. Mais on sentait la perspective de l'homme qui cuisine et qui dit : mais pourquoi on parle pas de mes soucis à
ça.
Moi
Mais oui, en plus, voilà, il y a des couteaux et tout, ça aurait été chouette. Enfin, plein de situations ludiques incroyables.
Ah oui, des poivrons avec des yeux, super.
On vient de révéler le DLC qui va bientôt être annoncé.
Oh là là,
Back to
incroyable.
The kitchen.
Back to the kitchen. Tout ça pour dire qu'en fait, ce qui est important de retenir quand même, c'est que ils ont compris, Cody et May, qu'ils ont été transformés en poupées via les larmes de leur Rose. Fille. Et Cody a une superbe idée de se dire, alors attends, si on est passé comme ça grâce aux larmes, peut-être que la solution, parce que j'ai lu 2-3 livres de sorcellerie, voilà, je suis un petit peu woke et tout, on va aller prendre des larmes, et avec les larmes, on va peut-être pouvoir redevenir humain. May, qui est extrêmement intelligente dans sa vie, se dit oui, très bonne idée, excellente idée, on va se démerder pour faire pleurer notre fille pour pouvoir justement se baigner dans ses larmes et retrouver notre forme humaine. Et ça va les emmener jusqu'à la chambre de leur fille, puisqu'ils se disent, attends, comment on peut la faire pleurer? Peut-être en détruisant son jouet favori, qui est un petit éléphant qui s'appelle Rosie ou un truc comme ça, je crois qu'elle s'appelle.
Ah, je me rappelais même pas qu'elle avait un nom
du tout. Oui, elle a un nom, mais j'avoue que je sais pas.
J'ai oublié, donc tant pis pour l'émission. Voilà, vous pourrez me corriger dans les commentaires sur le Discord. Je me souviens plus comment s'appelle ce petit éléphant. Mais bref, leur idée, c'est de dire, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire le truc. Et ils vont aller au bout de ce sombre dessin. Ils vont tout simplement démembrer cette pauvre éléphante qui, comme tous les objets qu'ils ont croisés, elle aussi a pris vie, a une voix, une petite personnalité trop choupinou, tu vois. Elle vit dans son petit dans
oui,
sa petite,
c'est ça, c'est la petite princesse de son petit château, voilà, etc. Et donc ils vont, il y a tout un tas d'ailleurs de péripéties pour arriver à avoir ne serait-ce qu'une audience avec la reine, hein, parce que forcément c'est un royaume et tout. Et après ils la kidnappent comme des gens raisonnables, ils vont la tirer alors qu'elle se débat. À un moment, il y a son oreille qui se prend dans un tournevis ou un truc. Donc, il la démembre, il lui arrache les membres petit à petit et il la jette
devant
leur fille.
Et qui, bravo,
se met à pleurer.
Mission accomplie, ils ont réussi à faire pleurer leur fille devant tant d'horreur. Elle se met à chialer.
Et elle se retransforme en humain et c'est la fin.
Et non, malheureusement, ça n'a pas marché. C'est-à-dire toute la science de la sorcellerie qu'avait lu Cody, eh bien malheureusement, ça n'a pas marché. En fait, c'était pas du tout ça. Il va falloir fix your relationship. Et là, Dr. Hakim leur dit que il y a 4 morceaux de lettres à récupérer. Il faut les récupérer. Donc là, encore une fois, 4 fois des chapitres avec des péripéties, on va dans l'horloge, on va dans le jardin, on va dans un truc musical,
la
paradis.
Boule des neiges.
Ouais, y a la
et
boule
bien
de
sûr,
neige,
oui, il y a effectivement dans la boule de neige. Ouais. Voilà. Donc encore repéripéties jusqu'à ce que. Eh bien.
Jusqu'à ce qu'on se dise que c'est bon, il y a assez de contenu, assez de mini-jeux, maintenant on a.
Non, mais ils arrivent à reformer la lettre, donc là ils se rendent compte que leur fille, en fait, comme beaucoup d'enfants, j'imagine, se dit que c'est sa faute, tu vois. Ouais. Et donc, elle aussi, très raisonnable, elle tient ça de ses parents, elle décide de faire une fugue et elle part avec son petit sandwich et sa jukebox et son éléphant détruit dans son petit sac à dos et elle part à l'arrêt de bus. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que pendant ce temps, Cody et May, dans le niveau de la musique, ils se sont embrassés de nouveau, sans raison, mais voilà, ils s'aiment à nouveau, tout va
en
mieux.
En fait, elle a chanté,
ça va mieux.
Et là, ils se sont dit, vas-y, ils ont eu leurs souvenirs, de leurs vacances à la neige, à Courchecheux, quand ils faisaient du ski ensemble, tu vois, et ils se sont dit, c'est vrai qu'on a vécu des moments sympas, donc voilà, ils se rembrassent et
ils retournent, du coup, à l'arrêt de bus, et là, ils disent à leur fille, non, mais c'est bon, on reste ensemble, et là, c'est la fin. Ils vécurent heureux et ils eurent plein d'autres enfants à faire pleurer.
Voilà, donc déjà je voulais m'excuser auprès des personnes qui nous écoutent pour encore une fois cette condescendance, ce non-respect des scénarios de jeux vidéo. Voilà, je voulais vraiment m'excuser à propos
oui,
de ça.
Oui, mais alors attends, on a une bonne excuse, c'est parce que c'est vraiment nul, hein. Ouais. C'est pas nous. C'est juste nous qui sommes condescendants, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ils nous respectent pas vraiment avec cette histoire-là, ou en tout cas vraiment moi j'assume cette position et je la défendrai.
Ce matin je me faisais la réflexion, vous savez, on parle souvent des jeux, des films Pixar par exemple, on dit souvent que, vous savez, les enfants vont pouvoir avoir une lecture intéressante et aussi que les adultes vont pouvoir avoir une lecture intéressante sur ces films. C'est vrai que c'est ça la grande réussite des Pixar, c'est que peu importe l'âge qu'on a, je trouve qu'on arrive à en tirer des choses. Là, It Takes Two, j'ai un peu l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les enfants, eh ben, y a plein de trucs qu'ils vont pas capter parce que toutes les blagues, c'est des refs et tout, ça parle de choses un peu d'adultes, mais voilà, c'est pas très, très, très bien amené, c'est pas très bien mis au niveau des enfants.
Même dans les objets, tu vois, quand ils visitent la chambre de Rose, c'est des jouets de gens qui ont notre âge, tu vois, c'est des gamins qu'on... Enfin, c'est pour des gens qui ont grandi dans les années 80-90, donc si vous le faites avec vos enfants, ils vont pas forcément avoir les refs, quoi.
Ouais, et puis il y a plein de blagues qui sont à base de jeux de mots, qui sont des références sur des trucs que voilà, qui sont plus d'actualité, donc pour les enfants, c'est pas évident, et puis pour les adultes, bah vraiment, le traitement de la relation de couple de ce mariage, enfin voilà, il est absolument... il est fait avec... Je pourrais même pas dire que c'est fait avec le regard d'un enfant, parce que je sais même pas si c'est comme ça qu'on le présenterait. C'est vraiment mal écrit, cette relation, comment elle est décrite. Alors déjà, le fait qu'il soit... absolument con comme leurs pieds tous les deux, je pense qu'on peut le dire quand même. Parce
que c'est écrit, con comme leurs pieds, hein, c'est écrit dans le conducteur.
C'est ce que j'ai noté dans le truc, non mais c'est vrai que cette idée de faire pleurer leur fille, déjà, c'est quoi ses parents ? Il n'y a pas que la relationship qu'il faut fixer, tu vois, il y a plein de choses à fixer dans leur tête déjà, chacun de leur côté.
Sachant que ça c'est un passage, mais au global... En fait, ce qui est très gênant dans la façon dont ils gèrent leur relation, c'est que le jeu, malgré le fait qu'on va coopérer, ne va pas les mettre dans des situations dans lesquelles ils vont comprendre leurs différences, ils vont pas progresser. En fait, ils apprennent vraiment rien tout au long de l'aventure. Ils étaient bêtes au départ, ils sont toujours aussi bêtes à la fin, ils le sont peut-être même encore un peu plus. et du coup, il n'y a pas de sentiment de progression. Ce qui, justement, si ça avait été traité, par exemple, dans un Pixar ou un truc comme ça, parce que... Ouais. Bon, on peut le dire, le sujet des parents qui divorcent avec les enfants qui vont essayer de les sauver ou quoi que ce soit, vous regardez la télé entre le 1er et le 24 décembre, il en passe 18 par jour sur les chaînes, donc c'est un sujet vu et revu, rabattu, cliché de ouf, et même là, ils ont réussi à le traiter d'une manière qui, alors certes différente, mais... qui vraiment nous avait choqué, parce que ce passage de l'éléphant, on va en parler entre nous parce qu'on n'a pas tout à fait le même avis là-dessus, mais avec Hugo on a trouvé ça quand même vraiment complètement tu vois, c'est pas du tout pertinent ce truc là ça vient de nulle part, et ça ne fait que renforcer l'idée que ces personnages sont cons comme leurs pieds, quoi.
Ouais, c'est ça, pour résumer un peu, hein, je vais globalement dire ce que t'as dit, mais ça s'inscrit dans un format connu qui marche bien, hein, en général, où va y avoir effectivement ce couple en danger, qui est confronté à des épreuves, et parfois ça va être du surnaturel ou quoi, ça va être métaphorique en fait, pour signifier juste le combat, l'adversité, et qu'en fait ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'être deux pour y faire face, et il y a souvent des phases de communication ou voire d'introspection où les personnes vont se rendre compte en fait un petit peu de leur vision du monde, de comment est-ce qu'ils voyaient les choses par rapport à leur partenaire, et vont apprendre des choses sur eux, sur l'autre, et sur comment est-ce qu'ensemble ils peuvent éventuellement recoller les morceaux et se remettre ensemble ou pas, éventuellement, mais c'est plus l'exception que la règle, je pense. Et le jeu, il s'inscrit complètement là-dedans, hein, comme tu l'as dit, il suffit de regarder le trailer, hein, y a vraiment ce côté très comédie romantique de Noël, ça, et c'est complètement assumé. Et c'est pour ça qu'au départ, le fait qu'il soit con, c'est pas un problème, à la base, mais effectivement, comme l'a dit Benoît, en fait, rien ne prouve qu'ils ne le sont pas toujours. En fait, il n'y a pas eu ce déclic, ce moment où ils se disent « Ah, en fait, toi, tu vois comme ça. Ah, mais en fait, on est devenu ça. C'est vrai qu'avec le temps, le truc, mon travail, je ne me suis pas rendu compte, machin. » Il y a eu... En fait, ils n'ont réglé aucun des soucis. Ils n'ont pas identifié un problème en particulier qu'ils ont pu régler. Il y a eu une fin qui a été écrite, comme ça a déjà été mentionné. En fait, il y a le passage de la chanson qui se joue un peu émotif. Il y a quand même quelque chose, genre May, on sent ce trac, ce stress à un moment du concert, où vraiment à un moment la caméra elle la suit elle, juste à la troisième personne. Il y a une petite tension qui monte, puisque tu comprends qu'elle aimait chanter à une époque, elle a arrêté, Cody était son fan et tout. Et en fait, c'est juste elle chante, Et voilà, ils sont ensemble. En fait, il n'y a rien eu derrière. C'est un peu étrange. On a ce sentiment qu'une conclusion a été écrite sans qu'il y ait un chemin qui nous y emmène, en fait. Et même le moment où ils s'embrassent, c'est un peu « Ah bon ? Enfin, ah bon, ils s'embrassent ? Ah bon, ils se remettent ensemble ? Pourquoi ? Enfin, je sais pas, en fait. Ok, il s'est passé un truc au niveau des sensations, mais il n'y a rien d'autre. »
Et ce qui est terrifiant, c'est que c'est un jeu où on fait que coopérer, donc t'avais potentiellement, je veux dire, un terreau d'une fertilité bah, sans
c'est
nom
la promesse du jeu.
Pour justifier le fait que, oui, ben, comme sûr. On travaille ensemble, on arrive à se réaccepter et en fait, même pas. Il n'y a pas de moment où, tu sais, il y a ce moment voilà, dans les films de Noël, comme ça, où ils se rappellent d'un truc, ils se rendent compte, ils arrivent à travailler ensemble, il y a un petit peu de connivence, il y a des petits regards, ils se font des blagues alors que devant ils se détestaient, etc. On n'a pas du tout cette progression-là, et donc à la fin, en fait, ce qui les réunit, bon, bah, c'est juste d'aller sauver leur fille qui va prendre le bus, et c'est tout. Donc c'est vrai que c'est, voilà, ça nous avait vraiment paru dommage, parce que cette histoire-là, moi j'ai l'impression que c'est un peu une occasion manquée de faire un truc ouais. très cool avec le gameplay, de vraiment de retrouver quelque chose, et ce qui est surprenant, c'est qu'on sait que Fares, il en est capable, parce que Brothers, justement, qui est son premier jeu, était très fort sur ça et reste encore aujourd'hui un très bon exemple de ce qu'on peut ressentir à travers des simples actions sur une manette. Donc c'est dommage, quoi. Voilà, petite occasion manquée.
Non, et puis surtout, moi, enfin, tu vois, la promesse de base, que de dire viens, on va parler de ça. Enfin, tu vois, parler de divorce dans les jeux vidéo, c'est pas un truc, voilà, c'est pas très commun dans du triple A. C'est pas souvent les histoires qu'on nous raconte. Donc clairement, quand le jeu commence, je me dis tiens, c'est quand même super intéressant de venir explorer ça. Et surtout, comme tu le dis, voilà, c'est un jeu coop, donc on est sur un exercice presque de style, tu vois, de se dire ok, on va faire un jeu coop qui parle de comment on essaie de reconstruire quelque chose qui se fait à deux normalement. Il y avait quand même un terrain pour faire quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est que en fait, comme on veut parler à des adultes, tu vois, toutes les vraies questions du couple, il y a rien qui est posé, tu vois, sur la gestion de la parentalité, c'est-à-dire que comment ils gèrent leur fille, ils décident de la faire pleurer. Tu sais, il n'y a pas un moment dans la deuxième partie où ils se disent « Attends, là, on a vraiment merdé quand même. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer ça par rapport à elle ? Comment, je sais pas, on essaie de reconstruire l'éléphant ?» Tu sais, on passe juste à autre chose, tu vois.
Oui, c'est vrai qu'ils ont... ils se regrettent même pas.
Il y a aucune question. Alors, je vais pas parler de sexe ou de trucs comme ça, parce que c'est, voilà, le jeu
aborde
forcément ces questions.
On peut tuer des gens, mais voilà, on peut pas les aimer.
Faut pas déconner. Mais, en tout cas, vraiment, tu vois, vraiment les trucs qui sont le ciment d'un couple, ou le partage des tâches, du travail et tout, il y a rien qui est remis en question. On se dit, OK, comment on va fonctionner pour que ça marche différemment à l'aune de ce qu'on a appris là en collaborant, en fait. Rien. Le jeu ne dit jamais ça, quoi.
En fait, il y a ce message assez basique que, bah, en fait, ce qui a fait pleurer leur fille, c'était l'état de leur relation, et une fois qu'ils se rabibochent, du coup, forcément, là, la cause du départ de leur fille est réglée, et du coup, c'est bon. Mais en fait, ils n'ont pas ce déclic. En fait, c'est pas eux qui se le disent, c'est pas conscient, en fait, c'est le jeu qui te le dit, mais comme dit, c'est que c'est calqué sur un peu la morale des films, voilà, c'est mieux ensemble, machin. Mais en fait, tu dis, mais puisque vous n'avez absolument communiqué sur rien, le good ending, c'est le divorce, en fait, dans ce jeu, donc bon.
Ah bah, de toute façon, normalement, ils rentrent à la maison. Tu sais, ils se parlent deux secondes, Cody, il se rend compte que May, elle a pas nettoyé un truc, ou que May, Cody, il s'est pas occupé d'un truc. Dans l'heure qui suit, ils sont de nouveau chez l'avocat.
Hein. Oui, c'est ça, c'est que vraiment, je trouve que quand le jeu finit, il n'y a pas eu d'arc, en fait. Tu te dis, oui, ils vont juste s'occuper de leur fille, éventuellement, réaliser qu'elle existe, cette gamine, et puis après, c'est tout, quoi. Donc, bref, c'était assez peu réussi là-dessus. Moi, j'ai fini assez agacé, je dois le dire, de ce jeu. Vraiment, ma première ligne sur mes notes, parce que quand je joue, je prends toujours des notes, la première ligne de mon document, c'est « J'espère qu'à la fin, ils finissent pas ensemble. » Et en fait,
ouais,
donc,
c'était
voilà.
Mon espoir. Mais aussi.
Pareil, je m'étais dit, bah, ils vont apprendre, tu vois, ok, on arrive à se comprendre, tu vois, on arrive à surmonter nos différences et à coopérer, etc. Je pensais que ça allait être ça, le jeu. Et à la fin, bon, on se sépare parce qu'on n'est plus devenu la même personne, on a eu des chemins de vie différents, machin, mais on arrive à se retrouver autour d'un but commun qui est de s'occuper de notre fille ou je sais pas quoi.
Exactement.
Enfin,
je veux dire, c'est pas un niveau très élevé, quoi.
Oui,
c'est pas très, très élevé comme exigence, tu vois, de juste dire, bon, bah voilà, on va juste prendre soin de notre fille et nous, bah, c'est pas grave, on a eu des bons moments. Maintenant c'est cool, on fait autre chose, tu vois, pourquoi pas, ça peut être intéressant dans la vie, mais pas du tout, c'est pas ce qu'ils ont eu envie de faire. Et surtout, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai vu une interview de Joseph Fares, tu vois, qui justement discute avec des mecs d'IGN, et en fait il a pas du tout une vision caricaturale du couple, tu vois, il t'explique que justement le mariage c'est un truc assez chrétien, tu vois, qui vient un peu de nos sociétés, comment c'est institutionnalisé, etc., tu vois, et tu dis bon, en fait l'amour c'est pas forcément ça. Et tu te dis, c'est, il y a un énorme paradoxe parce que son jeu, il traite le truc d'une manière mais totalement caricaturale, et lui, dans ses discours, bah, il l'est beaucoup moins. Donc je me dis, voilà, est-ce qu'ils ont juste pas réussi?
Ils ont peut-être juste pas questionné en fait la structure très classique de ce genre de film, hein, qui est bon, qui va souvent être américain ou quoi, et ça reste un pays où le mariage reste important. Alors il y a aussi beaucoup de divorces, hein, évidemment, mais tu vois que l'âge moyen, j'avais vérifié, j'avais fact-checké, mais l'âge moyen du premier mariage est quand même beaucoup plus jeune aux États-Unis par rapport à la France. Alors c'est pas non plus un gouffre énorme, hein, mais je crois qu'en grosso modo en France, on va dire, c'est 35 ans, et aux États-Unis c'est genre 29 ans, tu vois, c'est ça la moyenne. Mais et je pense qu'il y a beaucoup de ce côté moral en fait dans beaucoup de ces films où on va sauver le mariage, que ce soit pour les enfants ou par principe ou juste parce que voilà, ça fait partie c'est normal, ça fait partie du mariage de s'engueuler ou quoi.
Oui, d'une espèce de morale judéo-chrétienne de bah vous êtes engagé, c'est pour la vie, tant pis pour vous quoi.
Et pourquoi pas, mais comme on l'a dit, c'est que l'écriture du jeu en fait pendant le jeu ne mène pas à une logique, en fait, à cette conclusion logique. Donc de toute façon, c'est pour ça qu'on n'y croit pas. En fait, c'est ça le souci, c'est pas qu'il ait fait ce choix-là. C'est que organiquement, naturellement, il ne mène pas à ça, en fait. J'ai pas trouvé ça logique, vraiment. Le moment où ils s'embrassent, j'ai fait « Ah, bah d'accord, ok, bon, visiblement, ils s'aiment encore, tu vois. » J'ai pas senti cette progression.
En fait, les moments assez légers dans le jeu sont quand même plutôt réussis, ça on peut le dire. Mais dès que, justement, on vient dans le sérieux, ça tombe toujours à l'eau, tu vois. À la fois, le malaise, voilà, avec l'éléphant, on peut revenir très, très brièvement là-dessus. C'est vrai que la rupture de ton est intéressante en tant qu'exercice. Maintenant, est-ce que c'était vraiment sa place? Moi, je peux le dire, voilà, j'ai joué avec un gosse qui avait 10 ans l'année dernière et qui est assez sensible. Ça l'a traumatisé, tu vois. Il a vraiment passé un super mauvais moment. Et en jouant au jeu, j'étais pas du tout prêt à voir une séquence de cet acabit dans un jeu qui était depuis 5-6 heures assez léger et rigolo et bon enfant. Et
ouais, qui le redevient. Des écureuils et des abeilles une heure plus tôt, tu vois.
Et qui le redevient en plus juste après, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment juste cette séquence de l'éléphant qui est complètement un peu bizarre quand même à apprendre, tu vois. Mais moi, j'étais un peu surpris par un truc, je fais ok, pourquoi pas. Moi, j'ai trouvé ça curieux, je me suis dit tiens, on nous fait une sorte de God of War The Last of Us, pourquoi pas, tu vois, c'est un autre hommage intriguant. Mais c'est vrai que voilà, lui il l'a très mal vécu, et je sais que j'avais vu voilà que c'était pas le seul sur internet, il y a des gens qui ont été un peu voilà qui ont été un peu choqués
et
par
d'ailleurs
par ce
si vous nous écoutez et que vous comptez faire le jeu, quand il commence à parler de s'occuper de l'éléphant, voilà, prévoyez peut-être d'envoyer vos gamins
ouais, voilà, si vous jouez
dans
avec
leur
un
chambre
enfant,
pendant
ouais,
5 minutes,
de...
parce que vraiment, en plus, voilà. Le passage, même dans le terme de mise en scène, je sais que moi, on parle souvent de la scène, il y a une scène de tortue dans GTA V, voilà, je suis désolé, c'est du spoil, mais ça a tellement fait de bruit, je pense que vous en avez entendu parler. Moi, j'ai trouvé cette scène beaucoup plus malaisante, en fait, tu vois, j'ai vraiment eu beaucoup plus mal, parce que là, ils sont en train de faire du mal à une petite peluche qui
petite
n'a rien
peluche
fait,
qui chiale,
il lui arrache l'oreille, enfin, vraiment, ouais, t'as l'impression d'être dans Saw pendant quelques minutes, tu sais, c'est vraiment du body horror version peluche. Ouais. Et en plus, derrière, t'as cette séquence complètement lunaire où, du coup, ils se jettent, tu sais, ils font leur petite tyrolienne pour arriver à l'endroit où leur gamine pleure. Et eux, avec leur motion capture, tu sais, ils se frottent les fesses, ils sont là, genre, tu sais, c'est la pub Ushuaïa où ils font la douche, tu sais, genre, ah oui, vas-y, pleure-moi dessus, etc. C'est taré, c'est complètement surréaliste cette séquence.
T'as un peu sensualisé le truc.
Et après, bah non, mais tu sais, t'as Cody qui est là, ah ouais, vas-y, pleure-moi dessus, il se frotte les fesses et tout.
Ils sont contents. Ils sont
c'est
pas...
un peu plus burlesque que sensuel, on va dire. Mais c'est. Enfin, on est d'accord que c'est. Quand tu y replaces dans le contexte, tu vois, c'est le père qui se baigne dans les larmes de sa fille. Enfin,
et après,
quand même de réaliser le truc.
Aucun regret, tu vois. Genre, ils percutent même pas qu'ils ont merdé en faisant ça, parce que bon, ça arriverait de faire des erreurs. Je veux dire, voilà.
Bien sûr.
On peut pas être des parents parfait 100% du temps, tout le monde le sait. Mais là, justement, tu dis, mais vous avez même pas la présence d'esprit de regretter d'avoir pourri la vie de votre fille un peu plus, quoi. Mais bon, bref, voilà.
Et juste pour m'attarder sur la scène de l'éléphant, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai mon beau-frère, il jouait avec mon neveu qui est assez sensible, et ils étaient juste avant, et je l'ai prévenu, tu vois, mon beau-frère, ils étaient à peu près là, ils étaient pas en train d'y jouer, et j'ai dit à mon beau-frère, fais gaffe quand même, parce qu'il y a une scène après qui est quand même un peu, qui peut être compliquée. Il l'a regardé, il a fait, ouais, je suis pas sûr qu'on va la faire, il y a moyen que je la passe sans lui, on verra après, mais je la trouve quand même, c'est vrai que moi, à titre individuel, s'il y avait que moi dans le monde, moi, j'ai joué dans les meilleures conditions, j'ai joué avec un pote.
S'il n'y avait que moi dans le monde.
Oui. Mais vous allez voir que la leçon, c'est que justement, il n'y a pas que moi dans le monde.
Les leçons de Max, vous allez voir.
Je vous assure, moi, travailler avec Max, c'est un plaisir tous les jours.
Et oui, mais vraiment. Oui, mais c'est ça de prévoir les procès d'intention. Moi, je sais, je sens les crachats comme ça où on m'a déjà présenté.
Je suis même pas sûr parce que sur Discord, il y a
scène.
Plein de gens qui ont été choqués comme nous.
Oui, oui.
Donc, bon.
Oui, non, mais bien sûr, mais moi aussi, parce que de toute façon, tu, enfin, je sais pas, t'avais dit genre, oui, à part Max, nous,
mais
machin,
mais
non, mais,
pour te titiller.
Oui, oui, je sais bien, mais je sais bien, mais je suis léger comme le jeu, mais en fait, le moment, je le trouve intéressant, puisque, bah, en fait, c'est un vrai malaise, c'est-à-dire que ce genre de moment, il pourrait pas exister dans un jeu d'horreur, dans un jeu violent ou quoi, parce que, bah, tu l'as dit, hein, dans GTA V, la scène de la torture est moins malaisante, en fait, elle est moins choquante parce que c'est pas ce contexte-là. Et du coup, moi, j'ai joué avec un pote, et effectivement, on était vraiment genre, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et c'est complètement assumé par le jeu. En fait, c'est très bien fait pour être un moment malaisant. C'est-à-dire que la musique, elle se tord, tu vois, t'as une musique un peu de conte, ça fait très film d'horreur, et il y a un switch complet, en fait, du jeu. Mais effectivement, en fait, à partir du moment où c'est un jeu, on l'a dit, fédérateur, c'est l'occasion vraiment de jouer avec un enfant ou un partenaire qui joue pas trop, alors qu'il est quand même un minimum habitué, parce qu'on a des retours sur le Discord qui sont cool de personnes qui jouent avec leur partenaire, mais qui a pas trop l'habitude des caméras 3D, du passage en 2D, où faut viser, tirer, c'est quand même pas si simple que ça. Mais pour des gens qui jouent un petit peu et qui aiment pas trop, je sais pas, la violence ou quoi, It Takes Two, c'est une vraie opportunité, en fait, de partager un moment de jeu vidéo avec quelqu'un. Et c'est vrai que cette scène, elle peut mettre à mal le bon moment partagé avec, bah, comme on l'a dit, un enfant sensible ou une personne sensible, et c'est absolument pas prévenu, en fait, tu sais pas que ça va venir. Donc je pense que c'est un peu, je pense pas que cette scène soit une bonne idée pour le jeu, qui va laisser trop de gens, en fait, peut-être sur le côté de la route, même si à titre personnel, voilà, comme j'ai dit, j'ai goûté un vrai malaise, et c'est pas tous les jours que tu vis ça dans un jeu vidéo ou ailleurs, quoi.
Non, clairement. Bon, on sait qu'on a parlé assez longuement de cette histoire, mais c'était vraiment un sujet qui nous avait pris du temps déjà pendant la préparation, parce qu'on s'est dit, mais vraiment, c'est un truc sur lequel il y a une grosse occasion manquée. Mais malgré tout ça, on a quand même un très bon souvenir de ce jeu, parce que à côté de ça, justement, en termes de jeu coopération, It Takes Two, il arrive à faire quelque chose que peu de jeux, voire quasiment aucun autre jeu ne propose. C'est vraiment comment on pourrait expliquer ça, une avalanche d'idées, de gameplay.
Masterclass.
Masterclass, ouais. Oui, c'est vrai que ça, c'est des termes de petits jeunes, mais parce que c'est, en tout cas, voilà, vraiment, il y a un festival d'idées de gameplay.
Une pluralité et une diversité, ouais, d'idées qui sont mises comme ça de bout en bout, parce que, en fait, on l'a dit dans l'histoire, toutes ces péripéties, en fait, chaque petit chapitre, c'est vraiment une mise en jeu qui est totalement, pas totalement différente, on est toujours à la troisième personne, etc. Mais quand même, on passe par des gameplays totalement différents.
Ouais, et même au sein de chaque chapitre, on va avoir des rôles qui vont être différenciés. On est souvent dans ce qu'on appelle des gameplays asymétriques, c'est-à-dire que personne A joue, typiquement, il y en a un qui joue le marteau et l'autre joue le clou, voilà, pour vous expliquer les différences de rôles. Et donc, on a besoin de l'autre personne systématiquement. Je pense que, voilà, dans le passage de l'arbre, on va avoir Cody qui va tirer avec son petit lance-miel et May qui va essayer d'y mettre feu pour pouvoir cramer certains objets. Donc ils ont besoin l'un de l'autre et il y a une quantité impressionnante. Moi, je me souviens très bien de cette interview avant la sortie du jeu où Joseph Fares, il disait oui, toutes les 5 minutes, on veut qu'il y ait un truc qui change, on veut des idées et tout. Et en général, on se dit bon, bah ça, c'est du, tu vois, c'est de l'esbrouf, c'est de la communication, c'est un effet de manche. Pas du tout. sur ce jeu qui dure 12 heures, toutes les 5-6 minutes, je sais que Max, il a fait un peu de fact-checking au niveau durée de chaque petite séquence. Et vraiment, au maximum, je crois que c'est 10-12 minutes, tu avais regardé. De séquences qui vont durer, mais voilà, toutes les 5-6 minutes, on change de gameplay, on change d'enjeu, on change d'idée de jeu, et
ou
ça
alors
fonctionne
y a des,
tout
c'est
le temps,
plutôt qu'il va avoir des idées de level design, des choses qui vont permettre, en fait, de créer des variations avec les gameplay. Bon, je pense que le côté avec le lance-miel et le feu sont assez intéressants, parce que c'est vraiment deux mécaniques, du coup, complémentaires, parce qu'on peut allumer le miel et ça fait exploser, mais en fait, chacune de ces mécaniques, elles ont aussi leur pouvoir, c'est-à-dire que le miel va pouvoir alourdir des objets, le feu va pouvoir enflammer des trucs ou en faire tourner des petits tourniquets, des trucs comme ça. Donc en fait, il y a à chaque fois, chaque mise en jeu de gameplay qui va durer une heure et demie, va être exploité à travers plusieurs micro-segments qui vont montrer en fait bah, toutes les petites possibilités qu'on va pouvoir faire avec, avec ce gameplay, à la fois via des séquences qui sont un peu plus individuelles, c'est-à-dire que voilà, on fait chacun des petits trucs de notre côté ou des choses complémentaires, ou alors on va devoir faire des choses qui sont ensemble, en simultané, et qui vont combiner les pouvoirs des deux personnages, quoi.
J'aime bien ce petit moment aussi où tu découvres la mécanique et c'est toujours l'occasion de dire bon, qui a eu de la chance parmi nous deux, et est-ce que t'as des pouvoirs que tu vas trouver, et puis après c'est subjectif hein, chacun son truc, mais que tu vas trouver plus ou moins intéressant mais vous, c'est quoi votre pouvoir préféré, vous, est-ce qu'il y en a un vraiment que vous avez aimé ou une idée ou quoi, histoire de revenir un petit peu
sur la fin. Moi j'aimais bien le moment où on pouvait s'attirer là sur le côté magnet, ouais, parce ouais. que justement ouais. j'avais ouais. encore l'espoir que l'histoire du jeu se dise bon bah voilà, tu vois, ils se rapprochent, ils vont faire, c'est facile comme métaphore, le on se rapproche, on est des aimants. Les opposés s'attirent, machin. Tu peux faire plein d'idées, mais surtout en termes de jeu, c'était sympa. Puis tout ce niveau, de toute façon, dans la neige, là où il y a cette ascension finale, je sais que ça nous avait pas mal marqué quand on l'avait fait.
Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est l'arbre avec les pistolets et machin, et la neige. Je pense que c'est vraiment les deux moments les plus réussis à la fois en termes de rythme, de diversité et de mécanique. Vraiment, les mécaniques des magnets et tout, enfin. C'est malin, tu vois, parce que autant il y a des idées qui sont piquées ici et là, tu vois, c'est-à-dire que voilà, ok, le lancer de clou qui revient dans la main, bon bah quand on a joué à God of War avec la hache Léviathan juste avant, ça marche totalement, tu vois, on se dit ok, ça vient de là. Les glissades sur des rails, ok, on a déjà vu ça dans du platformer, le fait de changer de taille, d'avoir de trucs qui n'ont pas de gravité par exemple, bon bah ça, Mario Galaxy et tout, ok, on connaît, mais par contre, tu vois, le truc des aimants, ça, j'ai pas souvenir d'avoir trop
joué. Ouais, ça fait partie des idées un peu originales qu'ils ont, hein.
Et voilà, tu vois, il y a vraiment à la fois une diversité qui est prise ailleurs, mais en même temps ils ont leurs propres idées et ils savent bien les exploiter.
Ouais, moi j'aimais bien aussi le côté avec l'allumette et la sève, je crois que c'est...
Ah oui, c'est pas du miel,
oui, pardon.
Mais j'aimais bien parce qu'en fait tu dois te coordonner à deux parfois, c'est-à-dire parce que t'en as un qui doit d'abord répandre la sève et l'autre, tu sais, tu dis ouais, c'est bon, j'en ai mis, et l'autre qui doit tirer, ou parfois c'est quand toi tu dois tirer, tu dis ah, est-ce que tu peux mettre de la sève là-bas, et ensuite moi je vais tirer, donc il y a un truc qui marche bien à deux, je trouve.
Et puis ce qui est intéressant surtout, c'est que comme tu le dis, c'est beaucoup de mécaniques où ça peut pas marcher si tu communiques pas, et ça c'est quand même ça pour moi, c'est que tu réussis à faire un jeu de coop quand tu forces les gens à communiquer, c'est-à-dire que si on pouvait jouer chacun de notre côté sans rien trop se dire, tu vois, et qu'on arrive à progresser, ça veut dire que on n'a pas vraiment réussi à faire un jeu où justement le jeu se place aussi entre les deux personnes qui sont en train de jouer. Il y a ce jeu de communication, de dire attends, moi je fais ci et tout ce truc de communiquer verbalement. Normalement, c'est aussi ludique. Et ça, le jeu, il arrive à créer ça. Et c'est vrai que c'est, comme tu le dis, vraiment grâce à des mécaniques à la fois qui sont asymétriques. Donc vraiment, voilà, chacun a un pouvoir qui va compléter l'autre. Mais aussi, eux, ils ont vraiment une méthode de travail pour dire, OK, on va alterner entre des moments, ils appellent de la coop parallèle, c'est-à-dire qu'on fait chacun un peu des trucs de notre côté. Ils ont la coop step by step, c'est-à-dire que je fais une action, tu fais une action, je fais une action, et ça y est, on peut... débloquer le puzzle, ou alors les actions en simultané, c'est-à-dire que bah, moi par exemple je suis en train de sauter et toi tu dois m'envoyer des clous qui me permettent d'enchaîner, ou typiquement le fait de mettre de la sève et du coup la faire exploser au bon moment et tout. Donc ils ont tout un panel en fait, une palette de différentes formes de coopération qui mettent en place tout au long du jeu et avec lesquelles ils alternent, et qui fait que bah ouais, ça marche super bien, on s'ennuie jamais.
Et typiquement le step by step, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de jeux de coop, où vraiment je pense la matrice de ça, c'est en mode t'as un bouton, il y a une personne qui va se mettre dessus, ça ouvre la porte, du coup l'autre peut passer par la porte, et lui avec son propre pouvoir ou un truc va pouvoir débloquer une manière d'appuyer sur le bouton pendant que l'autre y passe. En général, t'as très souvent ça.
Ce qui est très intéressant avec It Takes Two, c'est que non seulement on a cette diversité, cette richesse de gameplay, mais surtout c'est très bien exécuté. C'est-à-dire que les mises en situation, on comprend à la fois par la narration et à la fois parce que le système de jeu, il est simple, la prise en main est relativement instantanée, et en plus en termes de game feel, donc c'est-à-dire vraiment de sensation de jeu, on sent qu'il y a un niveau de finition qui est bah, qui pour moi, tu vois, me dit, bon, bah, si quelqu'un d'autre pouvait faire ce genre de jeu, tu vois, moi, je penserais à Nintendo. C'est-à-dire que c'est vraiment des jeux qui sont très aboutis, où il y a eu un gros soin du détail sur les sensations de jeu, sur ce qu'on appelle le game feel, etc. Et ça, j'étais impressionné parce que tout du long, le jeu, il est quasiment irréprochable, même au niveau de la gestion de la caméra. Alors qu'on est justement avec soit deux angles différents, parce qu'on va être chacun sur sa petite moitié d'écran, même moi, je me souviens de tous les passages où on va faire sur des rails, etc. C'est très bien géré, on va toujours avoir un bon angle de vue, même quand on va jouer avec les perspectives où on va être contre des ennemis immenses et tout, la caméra s'adapte, elle va reculer quand il faut reculer, quand on va être sur les oiseaux dans l'horloge à la fin, elle va vraiment avoir un bon angle. Enfin, là-dessus, c'est là-dessus, clairement, je pense que le terme masterclass n'est pas volé. Moi, c'est un truc qui m'avait impressionné pendant qu'on y jouait. Hein.
Même quand ça passe en 2D, tu vois, il y a plein de sections où ils ont fait le choix justement de prendre une caméra en 2D. Quand c'est en vue du dessus, ça marche bien. Quand c'est en 2D, ça marche bien. Quand c'est vraiment en caméra libre, TPS, ça marche bien. C'est-à-dire que leur TPS est propre, leur platformer est propre. Tout est extrêmement clean, tu vois. Et ça, c'est vraiment admirable, je trouve, parce que quand on a un jeu qui, allez, toutes les heures et demie, il y a une mise en jeu différente, à chaque fois, vraiment, c'est des boutons, c'est un viseur différent, y a un moment où il y a du beat'em all, le feeling, il est pas dégueulasse.
C'est un combat Street Fighter sur l'avion.
Ouais. Oui, même le combat Street Fighter, tu vois, ils l'ont fait proprement. C'est pas incroyable, tu vois, mais voilà, il y a que Kojima qui se permette de faire des espèces de mises en scène comme ça, très méta dans son jeu. Et eux, bah, ils en font tout le temps. Et à chaque fois, ouais, c'est vraiment, moi, quand je suis... Honnêtement, c'est là, en me replongeant un peu dans le jeu pour la préparation, que je me suis quand même dit, ouais, bon, respect quand même au taf de toutes les personnes qui ont vraiment fignolé le truc, parce que c'est quand même méga, méga, méga clean. Surtout que je sors de Psychonauts 2, c'est pas aussi propre que ça. Alors, c'est très bien Psychonauts 2 sur plein de choses, et j'imagine qu'on en parlera dans cette émission un jour, mais vraiment, sur le gameplay, en fait, It Takes Two, c'est vraiment l'emporte largement sur le game feel.
Et en fait, le côté vraiment compréhension quasi instantanée des mécaniques, c'est presque une contrainte à ce stade-là, puisqu'il y a tellement d'idées, tellement de trucs. Si ça te prenait 5 à 10 minutes à comprendre comment ça fonctionne, tu t'en sortirais pas. Donc c'est vrai que c'était capital pour eux de faire des mécaniques relativement simples, qui se comprennent très rapidement. Et en plus de ça, là où ils le font bien, c'est qu'en général, quand t'en as un, t'as une petite aire un peu de tuto et qui est pas obligatoire, c'est-à-dire ils t'obligent pas à le faire, mais tu vas pouvoir interagir avec les objets du coin. De toute façon, le jeu, il est très fort pour ça, pour susciter l'interaction, en fait, avec plein de petits éléments du décor, plein de petites choses, et surtout dans les lieux, t'en parlais, mais c'est toujours intéressant de le rappeler, vraiment, c'est cette alternance entre les trois phases où tu disais c'était parallèle, step by step et simultané, et le côté... J'aime bien, donc ça doit être le parallèle, si je dis pas de bêtises. Ou par exemple, quand t'arrives au niveau du château, juste avant l'éléphant, il y a un moment où tu te balades, t'as des PNJ et tout, juste tu peux te balader,
vraiment.
Chacun se balade de son côté. Parfois, il va falloir, en fait, tu te rends compte qu'il va falloir récupérer des objets qui sont un peu cachés aux quatre coins de la map, mais il y a vraiment cette... une vraie justesse, en fait, entre le côté, voilà, t'as ta mécanique, tu la prends, mais il y a des moments où tu vas te balader, tu vas peut-être te prendre en photo, parce que les écureuils, ils ont des appareils photos, ou ils accrochaient des photos de la famille ou quoi, et il y a vraiment tellement d'idées à la suite. C'est l'occasion de dire aussi, c'est peut-être là, quand Benoît, tu parlais d'occasions manquées, en fait, c'est que justement, cette dynamique entre les deux joueurs, tu vois, tu peux créer avec des mécaniques du game design de coop, tu vois, de la confrontation, de la coopération, de la tension. Et il n'y a peut-être pas eu cette évolution, en fait, logique, où au début, moi, j'aurais trouvé ça intéressant, peut-être qu'ils fassent un truc où au début, on puisse, en fait, s'en sortir sans l'autre, tu vois, qu'il y a un côté peut-être un peu plus compétitif, entre guillemets, voire même speedrun, c'est-à-dire, il y a besoin des deux pour arriver au bout, mais t'as pas besoin de l'autre, tu vois, et tu arrives au bout, et t'attends, et ça t'embête d'attendre, l'autre, il est pas bon, tu te moques un peu, et après, au final, plus le jeu évolue, plus tu commences à avoir un peu besoin de l'autre, à avoir de l'entraide, etc. Là, il y aurait eu peut-être une petite symbiose histoire-mécanique, mais c'est ce qui, ça a été mentionné, mais c'est ce qui l'aurait fait rentrer au panthéon du jeu vidéo.
Mais par contre, tu vois, pour tout le mal qu'on peut dire de l'histoire et de certains moments du jeu, j'ai trouvé que dans d'un point de vue plus micro, quand on regarde vraiment séquence par séquence, ce qu'on va appeler les chatters, donc c'est vraiment ces petites lignes de dialogue qui vont être dites par les personnages, souvent de manière très contextuelle, quand on va sauter, quand on va se cogner contre un mur, enfin bref, dès qu'il se passe quelque chose, les personnages ont tendance à commenter ce qui leur arrive et à en parler entre eux, et ces mises en situation-là fonctionnent très bien, parce que là, dans ces petits instants-là, ça accompagne justement la compréhension et l'apprentissage de chaque mécanique, et ça fonctionne vraiment très très bien dans le rythme du jeu qui, de toute façon, là, ce qu'on est en train d'expliquer avec cette histoire de changement de mise en jeu, etc., c'est que le jeu a un rythme qui est assez en mode roller coaster, hein, c'est vraiment un grand 8, et c'est très maîtrisé. C'est-à-dire que justement, ils arrivent à aménager des moments. Moi, je sais que le moment quand on est dans la boule à neige et qu'on est dans le village et qu'on peut se balader, c'est, tu vois, juste la glisse sur les patins à glace. Moi, j'adore ça, le patin à glace en vrai. Bah, j'étais très content de faire des petits 8 et de faire des petits sauts et des machins, et je me suis baladé pendant 5 minutes à rien faire d'autre parce que je trouvais juste ça sympa, tu vois.
Bah, c'est vrai qu'il y a un travail sur le level design en fait qui est très chouette, à la fois vraiment sur la gestion des volumes, tu vois, il y a vraiment régulièrement des grandes places comme ça dans lesquelles tu vas pouvoir te balader, et justement, tu sais, ils laissent vraiment, ok, on vous laisse de la liberté, donc ça y est, prenez un peu votre time, et par contre après vraiment ils vont savoir resserrer pour pouvoir faire avancer, et il y a des séquences qui sont encore beaucoup plus cadrées, bah toutes les séquences en fait où la caméra est en mouvement toute seule, je pense à la séquence sur l'avion où il y a cette course poursuite en avion avec les écureuils qui va culminer justement avec le combat Street Fighter. Il y a le passage où on est dans l'eau sur le petit radeau, il y a des passages où on est sur les petites araignées, enfin il y a plein de moments où en fait où ils accélèrent comme ça très très rapidement. Il y a des moments d'action, un petit peu des petits moments de puzzle, et puis des moments beaucoup plus de liberté comme ça. Et ouais c'est moi je trouve que c'est très très bien rythmé et réussi tout du long. Alors il y a quand même il y a des passages qui sont un peu moins intéressants. J'avoue que le passage par exemple de l'horloge, j'ai pu le trouver peut-être un petit peu longuet. J'ai moins été fan aussi de la dernière séquence sur la musique, et bon, faut dire qu'elle termine tellement à plat sur la narration que ça lui a pas donné, mais sinon ouais, il y en a, c'est vraiment l'arbre encore une fois, et le passage dans la neige, je trouve que vraiment si on prend juste un snapshot comme ça de ces niveaux-là et qu'on voit par tout ce qu'on fait, il y a quand même beaucoup, il y a vraiment beaucoup à boire et à manger.
Ouais, je serais très curieux de voir justement leur courbe d'intensité, comment ça fonctionne, parce que bah forcément, en plus, comme il vient du cinéma, le découpage, c'est un truc qu'il doit maîtriser, parce que bah forcément le cinéma c'est l'art du montage. Mais là avec le jeu vidéo, ils sont obligés de comme ça de découper pour savoir de quoi ils avaient besoin en termes de voix, de level design, etc. Parce que chaque petite équipe, en fait, ils ont créé des petites cellules au sein de leur studio qui s'occupaient de chaque petit segment de gameplay. Et après, il a fallu tout mettre bout à bout et essayer de maintenir une certaine cohérence entre tout ça. Et c'est vrai que de parvenir à gérer comme ça ce rythme sur un format qui est très long, parce que comparé à un film, là, on est sur une dizaine d'heures, 10-12 d'heures, c'est plutôt cool, ce qui fait que même s'il y a des séquences qui sont pas ouf, moi, je sais que, par exemple, la séquence dans l'espace, quand on grandit, quand on grossit, je l'avais trouvé un peu longuette. Mais bon, de toute façon, on sait qu'au bout d'un moment, on va passer à autre chose. Donc, le jeu, très rapidement, nous fait comprendre que s'il y a un truc qui nous semble un petit peu moins réussi, il y a des chances qu'on ait des surprises derrière. Et à l'inverse, moi, je sais que la séquence de l'horloge, je l'avais bien aimé parce que d'un point de vue visuel, tous les petits engrenages, des machins qui bougent, ça fait un peu penser à du Dishonored 2. Il y a tous ces petits segments là, moi je trouve ça très joli, et esthétiquement il y a un truc qui me parle toujours, quoi. Donc voilà, ça c'est des trucs que j'aime bien, et ça et en plus c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais visuellement le jeu, il a une production value d'un triple A, quoi. Vraiment, les séquences de course poursuite, les radeaux, les machins, enfin ça explose dans tous les sens. Il y a vraiment, il joue sur les idées quand on va croiser des gros monstres, des choses comme ça. C'est vraiment un jeu qui, d'un point de vue finition, il est exemplaire, et c'est assez rare, parce que souvent on dit, oui, bon, bah, les jeux ils sortent, ils sont mal finis, etc. J'ai pas eu de bugs, j'ai pas eu de soucis, alors qu'il y a tellement de problèmes qui pourraient se poser dans le jeu, et non, ça roule.
Il y a un système aussi de game over qui fait en sorte que c'est pas punitif aussi. Je crois que tu récupères ta vie au bout d'un certain moment. La mort, il faudrait que les deux le soient pour que tu reset un petit peu avant. Sinon il faut attendre peut-être 5-10 secondes avant de respawn, je dirais, et ça fait que ça s'enchaîne bien aussi. En fait, tu vas pas avoir ce moment où vraiment tu vas te prendre la tête, tu vas recommencer une séquence 10 fois, parce que comme tu as dit, de toute façon tu vas en avoir une toutes les quelques minutes, grand max, et ils ont bien aussi pensé ça pour que ça supporte bien cet enchaînement. Et je vais revenir un petit peu sur cette notion de découpage. J'avais rematé toute la séquence de la chambre, donc la chambre de Rose. Et en fait, tu vois qu'il y a, il y a deux types de tâches en fait qui se distinguent. T'en as une où tu vas vraiment les enchaîner, tu vas enchaîner des petits trucs qu'on a, on les a tous oubliés, tu vois, à 90%. Vraiment des petits trucs où tu vas envoyer l'autre d'un canon dans un ballon. À un moment, faut tenir en équilibre sur une petite corde pendant que l'autre il fait tenir une boule en métal sur un truc en plastique au-dessus de lui. Il faut pas la faire tomber parce que ça dure genre 20 secondes, tu vois. Ça dure, j'ai calculé grosso modo, ça dure de 20 secondes à une minute grand max et t'en enchaînes, tu vois, t'en enchaînes une 10-15 avant d'arriver à l'audience de l'éléphant. Et nous, ce qu'on va retenir, en fait, c'est des boucles un petit peu plus longues qui vont durer au moins 2-3 minutes. Et j'avais calculé, j'ai regardé grosso modo un let's play de personnes qui se débrouillent plutôt bien, donc je pense qu'ils sont dans la moyenne basse. Mais en gros, les hand spinners, ça dure 3 minutes. T'as tout le passage avec le dinosaure, un peu puzzle, où faut lever des plateformes, les faire baisser, comprendre. Parfois, faut revenir en arrière parce qu'on est sur du puzzle basique, mais bon, il y a quand même, ils essaient de tromper un petit peu. Ça dure un peu plus de 6 minutes. Toute la phase en bateau où tu vas détruire des navires pirates, et à la fin, je comprends le. Enfin, j'y inclus le combat de boss contre le poulpe, ça dure 7 minutes 30. Et t'as tout le passage Diablo qui est assez long en fait. Bon, lui, il dure une dizaine de minutes, mais t'as une course-poursuite, tu te fais courser par un rouleau compresseur, t'as plusieurs combats différents, t'as genre 2-3 pouvoirs différents avec des cooldowns et tout, et il y a deux combats de boss. Et en fait, tu sais, je viens de dire pas mal de trucs, et ça dure, ouais, 12 minutes, ils ont mis. Donc, il y a un nombre d'idées, de trucs qui s'enchaînent, ouais, c'est. Et comme je dis, c'est que il suffit de le remater pour voir tout ce que t'as oublié, en fait, toutes les phases que t'as oublié. Hugo, il mentionnait le passage avec les araignées. En fait, je m'en rappelle quand tu me le dis, mais j'y aurais pas forcément pensé spontanément. J'ai revu, à un moment, t'es à course, t'es à dos de scarabée, c'était un combat de boss. Ouais, j'ai revu ça, j'ai fait « Ah oui, j'avais complètement zappé ce passage. » S'il fallait faire une liste de tous les passages, toutes les idées, toutes les mécaniques...
Interrogation, ouais, tu sais, interro surprise.
C'est là que tu te rends compte que, ouais, t'as... le cerveau humain, il est... tu filtres quand même énormément, quoi.
Sachant qu'on le disait tout à l'heure à moitié en disant est-ce qu'on a eu de la chance en fonction, puisque bah, chaque personnage va vraiment avoir son petit rôle qui va lui être attribué dans chaque séquence, et en fait vous pouvez très bien, si vous avez bien aimé le jeu, le refaire en inversant les rôles. C'est-à-dire que vous suffit de prendre l'autre manette, enfin d'incarner l'autre personnage, et vous n'allez pas du tout vivre, enfin si vous allez vivre la même chose, mais vous allez avoir quand même des petites nuances de gameplay qui font que vous allez peut-être découvrir des petits moments où vous aviez pu rigoler pour x ou y raison, et en fait vous allez vous retrouver dans une situation un peu plus difficile, quoi. Sachant qu'il y a aussi des petits passages, on n'en a pas forcément parlé, où on peut s'amuser à pourrir la vie de l'autre. Typiquement dès le début, quand on joue avec les histoires de clous et qu'on les rappuie alors que le personnage est dessus, bon bah voilà, on les fait tomber, c'est marrant. Et après vous pouvez tout à fait, tu vois, genre on est l'émission qui sauve les couples, mais le jeu lui il peut faire l'inverse. Enfin, je pense qu'on peut s'engueuler pour ce genre de truc-là pendant quelques minutes. Mais voilà, le fait de proposer en plus un gameplay différent aux deux personnages et de pouvoir le refaire un peu différemment, je trouve ça cool parce que ça rajoute encore plus de durée de vie, quoi.
Bah, clairement, moi, je le referai pas demain, mais tu me dis dans 2, 3, 4 ans, ce serait pas déconnant, je pense, effectivement, de refaire le jeu, de revivre un petit peu ça avec une autre personne. Ouais, non, ça reste une proposition, à mon avis, qui reste cool dans plusieurs années, ouais.
Et puis ça amène aussi à un jeu où, tu sais, le challenge ne va pas monter constamment jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vraiment chaque séquence, chaque mise en jeu va avoir sa petite montée en termes de complexité et profondeur. Et ensuite on repart à zéro quand on attaque une nouvelle mise en jeu. Et c'est vrai qu'on peut revenir un peu dessus, ça donne quand même un jeu qui est relativement accessible, où jamais on va monter trop en gamme en termes d'intensité, même si encore une fois on l'a déjà mentionné, mais c'est vrai qu'il y a une dextérité parfois sur les sauts, il y a saut, double saut, petit dash, c'est vrai que ça demande quand même une certaine maîtrise de la caméra à la troisième personne, donc ça reste toujours de toute façon la grosse barrière à l'entrée pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer aux jeux vidéo, mais néanmoins c'est vrai que le jeu monte jamais trop cette intensité en termes de challenge, et ça permet de garder encore une fois toute cette fluidité tout du long et de pas se prendre de jamais se prendre la tête, et voilà, c'est un jeu qui sait qu'il est un roller coaster et fait tous les bons choix pour continuer à nous mettre là-dedans. Et puis on peut peut-être mentionner aussi justement tous les petits mini-jeux qui viennent en plus s'ajouter de ces trucs, parce que il le disait dans une interview qu'il voulait faire des collectibles, mais ils n'avaient pas juste envie de mettre des collectibles, des trucs à récupérer partout, donc ils se sont dit « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Au lieu de faire collecter juste des objets, on va faire collecter des mini-jeux, et cette fois-ci, c'est vrai que les mini-jeux, ils sont un petit peu plus compétitifs, il y a souvent un petit score qui est affiché, alors il y a le truc débile, tu sais, de tirer chacun la corde d'un côté, donc en tapotant le truc, il y a un jeu de fléchettes, il y a un jeu d'échecs, enfin, il y en a plein, hein. Je sais même pas combien
il y en a encore, en tout. Voilà, c'est ça. Vraiment un WarioWare à lui tout. tout seul, quoi.
Ouais, exactement. C'est vraiment, bah, il y a du Mario Party, il y a du WarioWare là-dedans. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi ce choix qu'ils ont fait, parce que ça permet ça donne aussi un petit peu envie d'explorer, parce qu'il y a quand même une petite composante exploration. Mais cette fois, la récompense, bah, c'est toujours de la récompense intrinsèque. On va pouvoir trouver des trucs rigolos. Parfois, c'est même pas des mini-jeux. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez de ce passage où on peut enfermer Cody dans une petite capsule comme ça, et on appuie sur des boutons, et tu sais, ça le brûle ou ça le met, ah, ça lui du vent, ou des trucs comme ça. Bref, il y a des petits jeux où c'est même pas du jeu, où c'est juste tu vas pouvoir bolosser un petit peu l'autre comme ça pour rigoler. Il y en a un où tu peux faire du dessin, il y a un jeu musical aussi.
Oui, il y a le truc, tu sais, avec les petites tables de sable là où tu dois tourner les boutons pour faire des dessins. C'est pour ça, tu vois, je disais, c'est un truc, je sais pas, tu vois, par exemple, si les enfants qui jouent, est-ce que c'est des objets qu'ils ont encore? J'en sais rien, tu vois, j'ai pas d'enfants. Mais,
avec des tablettes ou des smartphones.
Oui, probablement. À mon avis, ouais, tu sais, tu leur montres ça et à côté, tu sais, ils ont l'iPad Pro de papa et t'es là, genre.
Ouais.
Ok, boom. Mais c'est pour ça que je disais qu'en termes de référence, c'était rigolo, parce qu'il y avait un côté où tu sens que effectivement le jeu s'adresse beaucoup à des adultes, parce qu'ils font appel à plein d'objets de notre enfance. Et dans les mini-jeux, ils s'amusent beaucoup là-dessus. Il y a un moment où on peut faire combattre les deux personnages de A Way Out, justement. Et tu sais, c'est des espèces de jouets qu'on a connus enfant, où c'est t'appuies sur des boutons et ils font des petits gestes comme ça. Et au bout d'un moment, il y en a un des deux qui tombe et qui est désarticulé et tu considères qu'il a gagné, tu vois. Mais c'est très basique en réalité, mais ça fonctionne bien. Et c'est vrai que le côté la visite, c'était un petit voyage, tu sais, petite Madeleine de Proust, quoi. Il y avait plein de jouets où je me suis dit, ah, ça je l'avais, ou sinon c'était ma compagne, elle, bah, moi je l'avais, etc. C'était marrant, quoi.
Et puis visuellement, moi j'aimais bien tout le côté, le passage. En fait, c'est très classique sur le papier, le côté la chambre de Rose, tu vois, vraiment, on est petit, les jouets sont grands, enfin, entre Toy Story, Chérie, j'ai rétréci les gosses, voilà, c'est quelque chose qui est très référencé. Mais moi j'aimais bien cette mer de boules et le passage du bateau, tu vois, le passage du bateau, je trouve vraiment beau. Les dinosaures aussi, et t'as des transitions qui font un peu train fantôme, ou entre deux trucs, t'es sur un wagon, sur des rails, et il y a plein de décors qui viennent, tu sais, un peu en carton, tu vois, de fêtes foraines. Non, mais c'est ça, c'est que non seulement le jeu, mécaniquement, on l'a dit, il est hyper bien poli, c'est des mécaniques simples, mais qui peut avoir des petites profondeurs de coop, ou en tout cas un petit temps d'adaptation. Il y a cette alternance de rythme, que ce soit par le level design, les mécaniques de puzzle et tout, qui vont s'enchaîner plus ou moins rapidement, qui vont être plus ou moins longues. Je sais pas, artistiquement, on l'a dit, voilà, la DA, elle est toujours réussie. Il y a une variété de décors très différentes, que ce soit l'horloge, les dinosaures, les jouets, enfin, tu vois, quasiment tout est hyper bien réussi, pas de bugs et tout, enfin, vraiment, le jeu, ouais, il est vraiment, vraiment super, en vrai.
Ce qui est cool, c'est vraiment, il se refuse rien, tu vois, c'est-à-dire que vraiment, cette séquence en bateau, t'as l'impression que tous les petits fantasmes auxquels tu peux penser, te dire, ah, ce serait cool si on faisait ça, le jeu se dit, bah, t'inquiète, on va le faire, on y a pensé, on a fait des trucs, et c'est aussi ce que disait Joseph Fares, c'est qu'il avait cette stance, enfin, il avait ce discours qui était de dire, c'est un fucked up game, parce qu'on va fuck it up, à chaque fois qu'ils avaient des idées, les designers, je le disais, c'est pas assez fuck it up, tu vois, et du coup, il a poussé vraiment tout le monde dans ses retranchements, et c'est vrai qu'il y a ce côté turbo fête foraine, ça part, enfin, je sais pas si vous vous souvenez du passage où on est sur des espèces de poissons hallucinogènes comme ça, ouais. Tu te dis, bon, là, vous êtes parti dans un délire, encore une fois, tu vois, je suis pas sûr que les enfants, ils aient capté ce qui se passait réellement.
Et ça, c'est pareil, ça dure genre 2 minutes, quoi, enfin...
Oui, c'est ça, mais ils s'autorisent de le faire, en fait, ils se disent, ouais, vas-y, on le met dedans, et encore une fois, c'est pour ça que ça me fait penser à Kojima, parce que c'était cette façon de dire, oui, à toutes les idées les plus farfelues, on les met, et on essaie quand même de les travailler un minimum pour que ça donne quelque chose. Ça donne une émotion de jeu intéressante, et voilà, ça encore une fois une grosse réussite là-dessus.
Et donc on arrive un petit peu au bout là de ce qu'on voulait vous dire en fait sur It Takes Two. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a ce côté un peu ambivalent, c'est-à-dire que bon, on a pas mal insisté sur l'histoire qui nous avait vraiment déçu, mais par contre à côté de ça, le jeu est tellement réussi sur plein de ses aspects purement ludiques qu'on comprend finalement son succès et sa récompense au niveau des Game Awards. Et surtout, bah, le fait est que It Takes Two aujourd'hui, si vous avez des gens, ce qui arrive assez souvent, qui vous demandent, je sais pas, pour les fêtes de Noël, les anniversaires, s'il n'y a pas un jeu qu'on pourrait faire à deux, bah, vous dites It Takes Two, vous ne pouvez pas vous planter, en fait. C'est vraiment devenu, pour nous, la référence du jeu en coop. Et comme c'est un segment sur lequel peu de studios et de gros éditeurs osent se mettre, il y a des chances que pendant pas mal d'années, ça soit le cas et que ça reste It Takes Two, tout simplement.
Ouais, je pense qu'on est vraiment sur une référence. Je pense que c'était l'objectif de Joseph Fares, tu vois, qui avait déjà été amorcé avec A Way Out. Et là, je crois que, ouais, avec It Takes Two, ils ont vraiment posé... je n'ai pas utilisé l'expression à laquelle je pense, mais ils l'ont fait sur la table. Et voilà, ça y est, c'est vraiment la nouvelle
ils
référence.
Ils ont posé
et...
les oreilles des éléphants sur la table.
Exactement, ils ont posé les boules, la mer de boules sur la table. Et voilà, du coup, c'est vraiment réussi. Et je pense que, comme tu le dis, en fait... Je garde toujours Portal 2 dans ma tête comme une des grosses refs pour de la coop. Mais voilà, It Takes Two. Et du coup, bah, très curieux de savoir... Je tends à penser qu'ils vont continuer dans cette direction, qu'ils vont continuer à faire du jeu coop parce que bah, maintenant, c'est leur savoir-faire. Maintenant, est-ce qu'ils vont rester voilà, sur des collections de gameplay ou est-ce qu'ils vont essayer de revenir sur quelque chose qu'ils vont essayer de beaucoup approfondir tout au long de jeu ? Je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on a lu juste avant l'enregistrement qu'il va y avoir soit un film, soit une série. Alors, peut-être plus probablement une série, mais en tout cas dérivée du projet. Alors voilà.
Bon, si ça se fait vraiment, hein, déjà, voilà. Parce qu'on est vraiment au stade de l'annonce.
Grosse hype, j'ai envie de dire, au sein de cette équipe pour un projet audiovisuel autour de It Takes Two.
Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'ils le fassent quand même, parce qu'on n'en avait pas parlé pendant la partie contexte, parce que c'est un petit détail, mais on sait qu'il y avait eu cette histoire que l'éditeur Take Two avait
c'est vrai.
Mis en fait des bâtons dans les roues à The Light pour déposer la marque It Takes Two. Et du coup, c'est pas une IP qui va rester. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas faire It Takes Two, tu vois. It Takes Two 3 ou tout ce que vous voulez parce que justement ils n'ont pas pu, donc ils ont abandonné en fait leur démarche de dépôt de marque déposée justement et donc je suis surpris de me dire est-ce que c'est justement pour essayer tu vois de faire la nique à Take Two en sortant une série là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue visuel ça pourrait fonctionner parce que bah, comme on l'a dit, c'est tellement référencé sur du Toy Story, du Chéri, Géré, Tracy, les gosses, etc. Que, ou du Jumanji, ce que vous voulez. Enfin, ça peut fonctionner sur petit écran. Il va juste falloir embaucher des gens qui savent écrire. Et ça peut marcher.
Et de toute façon, par contre, c'est que même s'il ne prolonge pas sur It Takes Two, ce qui est Joseph Fares, encore une fois, tu vois, il a appuyé son nom. C'est maintenant, on le connaît. Et je pense que voilà, il pourra se targuer d'avoir le soutien comme ça d'un gros éditeur comme Electronic Arts. Ils pourront continuer à bosser et faire les choses comme il l'entend. Et ça, même si voilà, sa personnalité, il peut agacer parfois un petit peu dans sa manière de présenter les choses, c'est quand même un créateur intéressant au sein du médium qui défend des trucs justes. Tu vois, qui dit voilà, quand il dit voilà, les microtransactions, nous, il n'y en aura pas dans notre jeu, même s'il y est, je leur dis non, tu vois. C'est vrai qu'avoir un trublion un petit peu comme ça dans ce délire-là, ça fait du bien, en fait, d'avoir aussi un créateur qui dit les choses simplement et de manière assez légère, mais qui les dit quand même, et surtout qui maintient ses positions dans ses jeux. Et ça se traduit aussi dans sa manière de faire les jeux, voilà, pas de répétitivité, une durée de vie qui tient la route, on s'en fout de la rejouabilité, on veut juste que vous amusiez jusqu'au bout du jeu, et tu vois, c'est chouette de retrouver les discours dans le jeu, et c'est ça finalement qui me donne de la sympathie pour lui. C'est-à-dire que c'est pas juste des paroles en l'air comme ça, c'est que derrière, bah, ce qu'il crée, ça c'est fait en adéquation.
C'est fou de se dire qu'il travaille avec Electronic Arts, tu vois. C'est de se dire que ces personnalités-là, où Electronic Arts, c'est une boîte vraiment de bureaucrates. C'est quand tous les retours qu'on en a, c'est des gens qui regardent des chiffres. Et tu sais, la courbe elle monte, ils sont contents. Si la courbe elle descend, t'es viré, ils suppriment le studio. Donc ça va aussi vite que ça. Hein, c'est très binaire par moment. Et là, tu te dis, ils arrivent à coopérer avec ce gars-là. Donc bon, il y a des chances qu'au sein d'Electronic Arts, les gens qui gèrent EA Originals soient justement un peu soit des marginaux, soit des gens qui ont vraiment qui parviennent en fait à mettre en avant ce truc-là. Et d'un point de vue très cynique, c'est vrai que de continuer de mettre en avant quelqu'un comme Joseph Fares aux côtés d'Electronic Arts, c'est une super aubaine pour eux, parce que ça permet justement voilà, de redorer un peu, on le disait, leur blason auprès du public, de gens qui sont informés. C'est-à-dire que, évidemment, que le monsieur et madame tout le monde qui jouent aux jeux vidéo de temps en temps, ils s'en foutent, mais... Par contre, pour les gens qui sont surinformés sur l'actualité, tu vois, de se dire, bon, bah, Joseph Fares, il peut faire ses jeux et c'est quelqu'un qui apporte un truc qu'on n'a pas vraiment dans le jeu vidéo, parce que des jeux coop, bah, il y en a finalement très peu.
Bon bah écoutez, je crois que voilà, on a fait le tour sur ce It Takes Two, épisode fait en coop à 3 parce que voilà, on ne respecte rien. Merci de nous rejoindre sur notre Patreon, vous pouvez soutenir l'émission, j'espère sincèrement que la prochaine ce sera en présentiel, que je vous pourrai retrouver mes deux petits choux là, voilà, ça va être que ce sera quand même plus sympa que chacun derrière notre écran. On remercie également Third Edition, je rappelle que c'est encore la période des soldes si vous écoutez l'épisode à la sortie. Et puis bah, sinon, si c'est plus les soldes, vous quand même, il y a quand même des livres de toute façon qui sont pas encore en solde, des trucs très très bien qui arrivent, on en reparlera la prochaine fois. Le prochain épisode, oh là là.
Ah bah là, il texte tout aussi, hein, je veux dire, l'amour, la fraternité et le devoir.
Et le devoir, exactement. J'ai envie de dire l'appel du devoir. On vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Salut.
Ciao.
Salut.